Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode.
Et à ce moment-là, on a une techno, on sait qu'elle, enfin, on a vraiment rafistolé le truc. C'était sous PrestaShop, qui est pas du tout fait pour faire du multi-shop. Mm-hmm. Tu peux le faire sur 3-4, mais tu fais pas 2000 boutiques dessus. Et nous, on décide d'ouvrir en disant, OK, on va voir si ça prend. Et on passe en l'espace de un mois à 1000 utilisateurs, enfin plus de 1000 vendeurs qui créent des comptes. Et là, on pensait qu'on allait avoir que des artistes parce qu'on vient du monde de l'illustration. On a des médias, on a des marques qui font plein de produits mais qui n'avaient pas cette typologie de produits, des entreprises qui décident de créer leur boutique pour pouvoir permettre aux gens d'acheter leurs sweats ou leurs t-shirts de boîte, des gamers, pas mal de streamers qui lançaient leur marque. Et on fait péter notre tech parce que le truc est pas fait pour passer à plus de 1000 vendeurs. Donc, en un mois, on fait tout péter. On avait externalisé avec une agence en Tunisie à l'époque. Ouais. Donc moi, je pars vivre en Tunisie pendant 3 mois pour être plus près de l'agence, pour essayer de rafistoler ce qu'on peut rafistoler. Donc ça, c'était marrant parce que pareil, avec le budget RSA où moi, j'avais une chambre de bonne à Paris, j'avais un super appart du maire en Tunisie à Sousse. C'était très cool. J'ai pas mal gagné au change. Écoute, très marrant, expérience assez drôle aussi, et on rafistole et on se dit bah en fait on peut pas dépasser les 1000 utilisateurs.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de SaaS Club qu'on a failli ne pas lancer. Je suis avec Adrien, le CEO de Panoply. Bienvenue Adrien.
Merci Eric.
Merci de ta patience déjà, parce que ça fait une demi-heure qu'on essaye de...
De se connecter.
De se connecter, de setup. On a envoyé des messages au support de Riverside qui a été très réactif.
Très réactif, ouais.
Et on y arrive finalement. Voilà. Donc, pour tous les founders qui nous écoutent, si vous avez une interview à distance, pensez à désactiver le VPN et toutes les extensions qui vont bien. Voilà. Ça peut vous éviter de galérer.
Super tips.
Donc, Panoply, qu'est-ce que c'est? Je décris rapidement et puis je te laisserai revenir un peu plus en détail dessus. Donc, Panoply, c'est une solution française qui permet d'envoyer des cadeaux responsables en un clic à ses clients, à ses partenaires, à ses employés. Donc, c'est une solution qui réinvente le cadeau d'entreprise que tu as créé en 2018. Et on va revenir un petit peu sur la timeline parce qu'il y a des choses assez intéressantes. À l'origine, vous avez monté un business d'agence que tu as transformé par la suite en SaaS alors que tout allait bien. Donc ça va être intéressant de voir pourquoi et comment est-ce que tu t'y es pris pour faire ce pivot. Mais avant ça, bah écoute, je te laisse tout simplement te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu as fait avant de monter Panoply.
Ouais, bah merci beaucoup de l'invitation déjà. Je m'appelle Adrien, moi j'ai cofondé Panoply avec Maxime Delmotte. On s'est rencontrés sur les bancs d'HEC. On avait pour objectif tous les deux d'être producteurs de cinéma à l'origine. Donc okay. Au final, rien à voir, même si il y a énormément de similitudes entre le métier d'entrepreneur et le métier de producteur, mm-hmm. qui est de jouer le chef d'orchestre sur un projet, de partir d'une idée, réunir les meilleurs talents pour le faire, trouver les financements et faire en sorte que ça marche. Donc on fait le même métier, même si l'output d'un côté producteur de cinéma, c'était aller voir et inciter des gens à aller voir un film. Là, c'est inciter des gens à utiliser un outil. On avait créé une association sur le campus d'HEC qui est pour but de promouvoir des étudiants en école d'art, en leur trouvant des financements et en gérant le marketing de leurs événements. Donc, on a produit des albums, enregistrements en studio, des concerts, des courts-métrages, un petit documentaire, une vente aux enchères d'œuvres d'art, pas mal de choses assez différentes. Ça nous a donné le goût de l'entrepreneuriat à ce moment-là. On a tous les deux fait des stages différents. Moi, je suis parti d'abord en conseil au Mexique. Au final, je changeais juste des couleurs de slides et de logos sur des slides déjà préfaites, mais c'était au Mexique et c'était assez sympa. J'avais des longs week-ends et j'en profitais bien. Et après, on s'est retrouvé avec Max en Égypte où on est parti pour Rocket Internet. Donc nous, on fait partie des anciens alumni de Rocket Internet et on fait partie de la première équipe. Donc quand on était encore que 12 chez Jumia en Égypte, ça s'était à peine lancé en Afrique. Et l'ambition était très forte du côté Rocket, qui était de créer le leader du e-commerce en Afrique. Donc, quand t'es 10 pèlerins au beau milieu d'un désert, parce qu'on avait vraiment les bureaux au milieu du désert, dans New Cairo, et que là, tu dis, OK, bah en fait, on va devenir le leader, on va créer Amazon en Afrique, ça paraît complètement fou. Et dans les premiers gens qu'on a recrutés, une des personnes était les RH, tu vois, parce que bah, on est passé très rapidement de 15 à 250 personnes. Et quand je discutais avec lui, je disais « Ok, c'est quoi ton rêve ? Enfin, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ?» Il me dit « Moi, je suis fan de foot. J'aimerais que Jumia soit le sponsor de la Coupe d'Afrique de football. » Et je le regardais en disant « Ok, ça me paraît assez fou, tu vois, t'es gamin, tu te dis pas possible. » Et effectivement, 4 ans après, Jumia était le partenaire officiel de la Coupe d'Afrique de football et s'est introduite au New York Stock Exchange. Et c'est la première boîte africaine introduite à New York. Donc, c'était une expérience complètement folle. On est passé, enfin nous quand on y était, on est passé de 10 collaborateurs à plus de 150 collaborateurs. On est passé en un an à numéro 3 du e-commerce en Égypte. On était sur un marché très porteur parce que on y était en pleine révolution. Donc même expérience humaine complètement folle parce que tu te retrouves dans des appartements avec des gardes armés, des sujets assez marrants. On pourrait creuser le sujet parce qu'il y a vraiment des belles anecdotes très drôles sur ma vie en Égypte avec Max. Et ça nous a donné le virus de l'entrepreneuriat. On s'est dit que tout est possible et que on pourrait faire aucun autre métier, en fait. Donc on a commencé à plancher sur des idées. On avait cette fibre artistique qui traînait de notre envie d'être producteur. Et on s'est dit, en dernière année d'école, pourquoi pas, on lance un side project qui s'appelait Balibar. Balibar, à l'origine, c'était de demander à des étudiants en école d'art de vider leurs tiroirs. Donc, ils font plein de croquis, ils font plein d'esquisses. Et ça traîne dans des tiroirs. C'est jamais utilisé, jamais mis en avant, alors que c'est des personnes qui auraient besoin d'un petit revenu complémentaire. Donc, on a créé une marketplace ouverte d'étudiants en école d'art. Alors, ça n'a pas du tout marché. Pour pas mal de raisons, c'est vraiment la fausse bonne idée. On est sur des artistes qui sont pas forcément des artistes connus, qui veulent vendre quand même cher. Les gens qui achètent de l'art, soit tu t'y connais et dans ce cas-là, tu préfères aller dans des galeries, tu networks, c'est ton plaisir en fait d'aller en physique rencontrer des gens. Soit tu n'y connais rien et tu vas pas mettre 500 euros dans un dessin d'étudiant. Du coup, on avait lancé ça pendant les études et après, on de pivot en pivot, on a commencé à lancer une plateforme qui était une sorte de yellow corner du dessin et d'illustration avec des illustrateurs assez connus. On a bossé avec des gars qui avaient gagné des prix d'animation, qui étaient arrivés, qui avaient, qui font la une du New York Times, du Washington Post ou du Monde. Mm-hmm. Et ces personnes-là, on leur a proposé de pouvoir créer des éditions limitées de leurs œuvres. Mmh. Et dès la première année, on a atteint 300 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'on était en dernière année d'école, donc en parallèle des études. Et on s'était fixé ça comme seuil. Donc, nous, avec Max, la façon dont on réfléchit, c'est tous les ans, on se fixe un objectif de ce qu'on doit combien dans l'année. On est dans les clous, on continue. On n'est pas dans les clous, on réfléchit à céder ou.
C'était quoi un peu l'organisation, justement, à l'époque? Comment tu gérais ça avec l'école?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance à HEC de rejoindre un master qui s'appelait Nouvelles Technologies. Mmh. Qui n'était pas le master entrepreneur, on a été refusé au master entrepreneur parce qu'on était des entrepreneurs. la raison qu'il y a derrière, c'est, et ils ont raison, c'est que c'est un master qui demande énormément de temps. Mmh. Donc, si tu veux vraiment profiter de ce master, tu peux pas avoir un side project à côté. Mmh. Alors que Nouvelle Tech, c'est un master où dans l'objectif, donc c'est avec 42, et l'objectif, c'était de pouvoir justement réfléchir à des idées de boîte et les monter durant l'année et donc là dessus c'était super intéressant et ils nous ont laissé énormément de temps dès qu'on avait des interviews, des rencontres avec des invests ou des calls clients. On avait le droit, une sorte de passe-droit, parce qu'on était entrepreneur, d'échapper aux cours. Mmh. Et de continuer à faire. Dans la même année, on avait les fondateurs de Side, qui était une plateforme qui était récemment rachetée et qui permet de pouvoir faire de l'intérim, hein, des leaders français de l'intérim, qui était dans la même promo que nous. Et pareil, on était en même temps, on se donnait les conseils sur « Ah, tu vas passer sur BFM, je suis en méga stress, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me préparer ?» Donc, c'était assez marrant, c'est vraiment école de l'entrepreneuriat à ce moment-là.
Ok, et donc ça... C'est comment je vais me stopper parce que on va repartir après sur la genèse. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter aujourd'hui ce qu'est Panoply, comme ça on va pouvoir rembobiner et mieux comprendre
le chemin. Pas de problème. Alors aujourd'hui, la mission principale de Panoply, c'est l'engagement. Engagement collaborateur, engagement client, partenaire, apporteur d'affaires, panéliste. Et l'outil qu'on va mettre à disposition, c'est d'accompagner les entreprises à créer de nouvelles approches d'expérience lors du parcours client collaborateur. Mmh. Donc, notre outil va se connecter automatiquement au CRM, au SIRH de nos clients et on va identifier dans le parcours des moments clés auxquels on aura peut-être envie d'envoyer une petite attention ou de distribuer des points. Et les gens peuvent après utiliser ces points sur des boutiques de fidélité et d'engagement accessible uniquement aux membres de la communauté de nos clients. Donc, les clients avec qui on travaille sont des PME, ETI, c'est plus principalement. Maintenant qu'on a une solution aussi, où on a un catalogue d'objets disponibles sans avoir à les personnaliser ou autre, on peut maintenant s'adresser même à des plus petites structures qui, en quelques clics, ont créé une boutique, ajouté leur logo, connecter leur CRM ou leurs outils, on récupère les membres et derrière, dans le parcours, ils décident de dire dans HubSpot, à chaque fois qu'il y a une signature de contrat, hop, je fais partir une bouteille de champagne avec un petit mot. J'ai un client qui vient de churn, je vais absolument savoir pourquoi. Généralement, c'est le moment où personne ne va te donner de réponse et les gens font te ghost complètement. Et donc là, tu peux très bien leur dire, bah, si vous répondez à ce sondage-là, je suis prêt à faire un don de 50 euros à l'association de votre choix. Et tu peux l'assigner dans ton sondage. Et le fait d'incentiver, de récompenser, pousse les gens à réaliser des actions. Et on a des super taux de conversion. Sur justement du sondage anti-churn, on multiplie par 5 le taux de réponse habituel. Et en fait, ces informations-là, le but, c'est pas de repêcher. C'est pas parce que tu lui as envoyé un petit cadeau que la personne va se dire « Ok, c'est bon, je reviens dans le service ». En revanche, tu récupères l'information qui est cœur, qui est celle de pourquoi les personnes sont parties. Et après, c'est à toi de regarder dans ton bateau qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois changer.
Et du coup, ça, c'est super intéressant comme use case. C'est quoi un peu les autres aussi que tu rencontres très fréquemment? Tu as parlé d'onboarding employé, etc. Enfin, généralement, c'est plutôt sur l'aspect fidélisation ou engagement qu'on vous sollicite?
Alors pour le coup les deux, là on trouve nous le plus intéressant. En fait, tu vas l'utiliser sur à la fois acquérir de nouveaux clients en collab et faire en sorte que ces gens restent. Ça c'est le plus important. Typiquement pour les collaborateurs, dans le parcours collaborateur, tu as par exemple l'onboarding. L'onboarding, c'est un moment où nous on va être en capacité, par exemple, d'envoyer un welcome pack de façon automatique. On va se connecter au SIRH, donc ça peut être PFIT, vous pouvez aussi utiliser Slack ou autre. Tu sais, quand tu as un nouveau collab, il arrive sur Slack. Et là, automatiquement, la nouvelle création d'un membre Slack va nous permettre de récupérer cette info et tu peux automatiser l'envoi d'un cadeau. Nous, dans la démarche écologique, on n'a pas forcément envie d'imposer ce cadeau-là. Donc, on laisse le choix à nos clients de pouvoir dire soit tu fais partir tout de suite le cadeau, tu as l'adresse, tu as toutes les infos et c'est dans ta... dans ton envie de qu'il ait tous ces éléments-là, soit ce qu'on a créé, c'est un magic link, donc un lien unique qui lui est envoyé par mail ou par Slack ou que tu peux récupérer sur l'application et donc tu fais envoyer par ce que tu veux. Et la personne choisit ce qui lui fait le plus plaisir. Donc elle va pouvoir dire bah tiens moi je préfère ça, ça j'en ai pas envie, ça j'ai envie de l'avoir sur Welcome Pack, c'est super intéressant pour moi. Et du coup je vais vous donner mon adresse et une fois que c'est complété ça va partir. Soit aussi, tu peux dire, j'ai Welcome Pack où je mets 30 € à l'assaut de mon choix. Et du coup, la personne peut dire, bah, en fait, des éléments brandés de l'entreprise, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, mais si je peux donner au nom de l'entreprise 30 € à une asso qui me tient à cœur, c'est une super façon aussi d'accueillir une personne. Donc, tu vas avoir ça sur l'onboarding. Et là, on vient de lancer un nouvel outil qui se connecte automatiquement à Slack. Et qui, donc, une fois que tu as créé un compte Panoply, tu peux créer une petite boutique. Donc, tu vas activer, inactiver tous les produits dont tu as envie. Donc, typiquement, dans le catalogue qu'on a, tu as t'es très tourné de bien-être, développement personnel. Donc, on a des produits que tu aurais envie de t'offrir pour toi. Du champagne, ça peut être des bouquets de fleurs, ça peut être un joli couteau de cuisine ou des choses comme ça. Mais tu peux aussi avoir des cours en ligne. On travaille avec le Media Vox pour ça. Ouais. On va travailler avec Masterclass, avec Mentor Show pour pouvoir suivre des cours. Tu peux t'offrir un petit soin bien-être, un massage, une nuit d'hôtel dans un hôtel 4 étoiles ou des billets de train. En fait, des choses qui vont être vraiment utiles pour toi que tu te serais acheté. Et donc, quand vous êtes dans l'interface, vous activez et inactivez tous les produits ou services, expériences que vous souhaitez voir et qui rentrent dans les valeurs que vous voulez transmettre. Vous avez votre boutique et toutes les semaines, les gens sur Slack reçoivent 50 points à offrir. Donc 50 points, c'est l'équivalent d'un euro. Donc on n'est pas non plus obligé de casser sa tirelire pour commencer à travailler avec Panoply. Chaque semaine, les gens reçoivent 50 points et après, avec un slash give, on donne 5 points à telle personne pour telle raison. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à créer la valorisation, le remerciement, en fait, tout ce qui n'est pas dans la job description habituelle d'une personne, tu vas pouvoir la remercier. Elle t'a donné un coup de main sur quelque chose. Elle a fait preuve d'une expérience ou d'un élément qui valorise une des valeurs qui est importante pour toi ou bah, il t'a donné un coup de main sur quelque chose. Nous, on a des choses où parfois, on va donner des points parce que quelqu'un a vidé de la vaisselle. C'est tout bête, mais quand on vit en communauté à plus d'une trentaine d'employés, bah, en fait, c'est quelque chose qui est important et qu'on a envie de valoriser et qui crée une bonne ambiance au travail.
Ok, ouais, je comprends bien. Du coup, le use case, il s'arrête pas juste au RH et au marketing. En vrai, c'est même potentiellement les sales et les CSM qui pourraient être intéressés par des outils comme cela. En fait, en tout cas, ils pourraient en être à l'initiative. Et après, pour l'implémentation, c'est autre chose. Mais c'est aussi pertinent pour eux qui ont des problématiques de fidélisation où ils doivent garder le lien, potentiellement ils doivent faire de l'upsell, etc. Enfin bref,
pour les commerciaux par exemple, ouais, on a des directeurs et directrices commerciales qui vont utiliser en disant on crée un challenge interne. On va se connecter au CRM, on va dire ok, celui qui va cette semaine, ne serait-ce que cette semaine, celui qui signe le plus de deals, je lui envoie un cadeau. J'offre un super resto à la personne qui va faire le plus de call ou qui va le mieux gérer cette session. En fait, comme tu as toutes tes récompenses, après, il suffit juste de cliquer sur le bouton, t'envoies le lien, la personne choisit ce qui lui fait le plus plaisir. En customer support, ça peut être une très mauvaise expérience avec un client. Ça s'est super mal passé, t'es Airbnb, t'as complètement foiré une réservation. Bah là, à ce moment-là, tu peux dire, bah, je suis en customer support, je vais générer un lien cadeau et je vais pouvoir lui envoyer un lien cadeau en disant, ok, on est vraiment désolé, on a résolu le problème, mais en plus, on va faire l'extra mile, c'est je t'envoie quelque chose. En account management, là récemment ça s'est passé, c'est une de nos account managers qui utilise notre outil pour le coup, et elle discute avec une de ses clientes qui lui dit, je suis désolé là pour le call, j'ai mal à la gorge, je me sens pas bien, je crois que j'ai un petit chopé un petit rhume, on doit annuler. Et en fait, elle a regardé dans le catalogue, elle a trouvé, on a un pot de miel d'une marque française, et elle lui a fait envoyer donc un lien en lui disant, bah ok, pas de souci, rétablis-toi bien, voilà le lien pour commander du miel si t'en as envie. Et en fait, cette petite attention de, tu crées un lien personnel, unique avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'écoutes, t'as compris qu'elle t'a dit quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est important pour elle, et tu témoignes de cette affection et de cette petite attention, et c'est là où tu fais quelque chose qui est complètement différent. Et le miel, je sais même pas si la cliente au final l'a commandé, mais l'attention était là.
Ouais,
et comme nous après, on fait quelque chose qui est commandé, ça t'a rien coûté.
Ah mais c'est trop bien. J'aime beaucoup la démarche et je pense que bon en 2023, je sais pas si d'ailleurs il sortira en 2023 cet épisode, peut-être début 2024, je sais plus. J'ai pas la programmation en tête, mais en tout cas je pense que c'est indispensable d'avoir ce genre de petite attention pour pouvoir entretenir la différenciation avec ce qu'il y a sur le marché et pour avoir des rapports un peu plus humains, on va dire.
Humains, ouais. La relation entre le pro et le perso est devenue tellement fine.
Ouais.
Que c'est important, on traite toute la journée avec des êtres humains, c'est des relations. Récemment, j'ai discuté avec un ami qui m'a donné un tip, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que j'essaye de faire, c'est dès que t'es en call avec n'importe qui, un client ou autre, pendant le rendez-vous, tu laisses quelque chose de personnel. T'es obligé de laisser quelque chose de personnel et tu crées un lien mais qui est complètement émotionnel, très fort avec la personne. Ne serait-ce qu'en disant, ah bah tiens, aujourd'hui je suis super content, il s'est passé ça. Ça n'a rien à voir avec la discussion que tu vas avoir avec cette personne, mais t'as donné quelque chose de qui vient de toi, et donc tu crées ce lien personnel. Et c'est ce qu'on a envie de faire aussi avec la petite attention, avec le cadeau, la récompense.
Bah écoute, justement, moi ça m'intéresse de savoir comment est-ce que t'es passé de Balibar ton business initial à Panoply. Est-ce que déjà tu peux nous refaire un petit peu la timeline et puis après on verra comment est-ce que t'as pivoté.
Ouais, carrément. Bah on lance en 2015, donc on se fixe avec Max les 300 000 euros de CA qu'on comptait faire à deux pour Balibar, en se disant, ok, si on arrive à ça, ça vaut le coup de continuer la boîte et pas de prendre un taf. Donc je pense que si on avait fait un petit peu moins, on aurait quand même continué parce qu'on avait trop envie de monter notre boîte. On lance, la boîte se développe, bon an, mal an, on réinvestit tout ce qu'on gagne. À ce moment-là, c'est RSA, chambre de bonne, comme en plus on avait eu un assez mauvais conseil, enfin je sais pas si c'est un mauvais conseil, mais en tout cas on nous avait demandé, on a dit de créer des holdings pour détenir nos parts en disant quand ça va cartonner vous allez être content d'avoir fait ça. Sauf que quand t'as ta holding personnelle tu payes le RSI, donc en fait quasiment notre RSA repartait en RSI derrière, donc on devait être les seuls mecs à payer le RSI, à recevoir le RSA dans notre chambre de bonne. Ça a duré pendant 3 ans comme ça. On a tout réinvesti, dès qu'on gagnait un euro, on le remettait dedans, on remettait dans la boîte. Et Balibar est passé de 300 000 à 400 à 500. Et en fait, c'était pas le succès escompté. Tu vois, ça marche suffisamment bien pour que tu aies envie de continuer, mais pas assez pour que ça soit... Enfin, vraiment cette fine barrière entre la persévérance et l'obstination, qui est assez difficile à identifier. Et à ce moment-là, on a des signaux faibles. Et à chaque fois, en fait, qu'on a fait des pivots, c'est les signaux faibles. Il faut pas se mettre de hier. Il faut vraiment écouter tous les éléments et se dire, OK, là, les signaux faibles qu'on a identifiés, c'était le côté, le coût d'acquisition commençait à être de plus en plus élevé. En fait, quand tu achètes un poster, tu en achètes un, tu en achètes deux. À la limite, tu es vraiment fan, tu en as acheté trois parce que tu veux faire des cadeaux. Mais au bout d'un moment, c'est bon, t'as ton poster, ça reste, tu vas pas le changer toutes les semaines et autres. Et donc, après une première base de fans et d'utilisateurs et de clients, en fait, il fallait toujours aller plus loin. Et on se dit, mais tout notre budget marketing, en fait, on est toujours en train d'aller chercher quelqu'un. On a zéro récurrence dans notre business. Et plus on avance, plus ça nous coûte cher. Alors qu'on avait vraiment un coût d'acquisition qui était bien moins élevé que notre marge. On appuyait sur un bouton, ça nous gênait. Enfin, c'était vraiment pas une planche à billets, mais en tout cas, ça marchait très bien de ce côté-là. Mais on voyait ce signal qui nous dit, ah bah de plus en plus là tu vas aller droit dans le mur, et au moment où ça dépasse, c'est bon, t'es dans le rouge. Donc on avait hésité à ce moment-là de se dire est-ce que on avait vu une boîte en Allemagne qui faisait à peu près la même chose et qui était partie sur un modèle de lever des fonds et on attaque d'autres pays et tout. Et en fait, on s'est dit mais c'est que tu fais que repousser le problème. Le mur est d'autant plus gros, mais au final, tu vas continuer à aller là-dedans parce que les gens, une fois qu'ils ont acheté ça, t'as pas de récurrence. Donc, on a commencé à réfléchir à se dire, OK, comment on pourrait rendre récurrent notre business qui, de nature, l'est pas. Et ce qu'on a identifié, c'était le côté, on a une plateforme qui permet de récupérer des designs et après de les imprimer sur différents supports connectés à des ateliers. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi on transforme pas notre outil en plateforme qui permet à n'importe qui, n'importe quel créateur de créer sa propre boutique, uploader ses designs et derrière tout est connecté, la marge est plus faible, mais plutôt que d'aller chercher des acheteurs, on va chercher des vendeurs. Et c'est les vendeurs qui vont faire vivre leur communauté. Enfin, typiquement, t'as un média, tu pourrais te dire, bah, vas-y, je crée ma marque et c'est ma communauté qui va acheter des éléments de façon récurrente. Donc, on a commencé à pivoter justement sur un truc un peu plus technologique, de dire, bah, en fait, on a la brique e-commerce qui permet à des créateurs de pouvoir imprimer leur design et gagner de l'argent.
Ça, c'était en quelle année quand tu dis ça?
Ça, c'était en 2017.
OK.
Juste avant le pivot sur Panoply. Et on lance la technologie en disant, bah, c'est gratuit de créer sa propre boutique. Et à ce moment-là, on a une techno, on sait qu'elle, enfin, on a vraiment rafistolé le truc. C'était sous PrestaShop, qui est pas du tout fait pour faire du multi-shop. Tu peux le faire sur 3-4, mais tu fais pas 2000 boutiques dessus. Et nous, on décide d'ouvrir en disant, OK, on va voir si ça prend. Et on passe en l'espace de un mois à 1000 utilisateurs, enfin, plus de 1000 vendeurs qui créent des comptes. Et là, on pensait qu'on allait avoir que des artistes parce qu'on vient du monde de l'illustration. On a des médias, on a des marques qui font plein de produits mais qui n'avaient pas cette typologie de produits, des entreprises qui décident de créer leur boutique pour pouvoir permettre aux gens d'acheter leurs sweats ou leurs t-shirts de boîte, des gamers, pas mal de streamers qui lançaient leur marque. Et on fait péter notre tech parce que le truc est pas fait pour passer à plus de 1000 vendeurs. Donc, en un mois, on fait tout péter. On avait externalisé avec une agence en Tunisie à l'époque. Donc, moi, je pars vivre en Tunisie pendant 3 mois pour être plus près de l'agence, pour essayer de rafistoler ce qu'on peut rafistoler. Donc, ça, c'était marrant parce que pareil, avec le budget RSA où moi, j'avais une chambre de bonne à Paris, j'avais un super appart du maire en Tunisie à Sousse. C'était très cool. J'ai pas mal gagné au change. Écoute, très marrant, expérience assez drôle aussi, et on rafistole et on se dit bah en fait on peut pas dépasser les 1000 utilisateurs.
D'ailleurs, donc les 1000, juste pour bien comprendre, ils venaient d'où? Enfin, qu'est-ce qui fait que t'as attiré une population si large? Comment est-ce que tu les as attirés sur la plateforme?
Ouais, c'est une super question. Alors ça remonte. À l'époque, on avait quand même une très bonne communauté d'artistes. On avait beaucoup travaillé notre communauté. Dès le début, avant même de lancer la première la boîte, on avait créé un réseau Facebook. Au moment où ça coûtait pas très cher d'avoir du fan, on était passé à plus de 150 000 fans, je crois, assez rapidement, parce qu'on partageait du contenu, on mettait en valeur des artistes, les artistes en parlaient et autres. Et du coup, ce sont les artistes eux-mêmes qui, quand on leur a donné la possibilité, ont eux-mêmes invité. Donc c'est vraiment du parrainage et de la capillarité, quoi. Inciter en créant des liens de parrainage, en disant bah, vous pouvez créer pendant le premier mois, on va pas prendre de marge. Donc on avait un peu incité à la création. Et eux en parlent à des potes qui avaient des groupes de musique, qui en parlent à des associations. On avait beaucoup utilisé notre réseau, envoyé énormément de mails en disant bon, si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, en travaillant le côté présente-moi 3 personnes. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est présente-moi 3 personnes. C'est très facile, mais on l'entend souvent très comme conseil, mais ça fonctionne, c'est puissant. Et ce qui nous a étonné, c'est qu'on a, quand on a commencé à en parler, beaucoup d'entreprises qui ont utilisé, en se disant, mais attends, le marché du cadeau d'affaires ou des produits imprimés, mais c'est complètement, c'est bloqué comme marché. Pour nous, c'est un océan rouge, il n'y a pas de place. Et au final, avec le côté technologique de pas avoir à faire de stock, de pouvoir imprimer à la demande, de pouvoir avoir une boutique, c'était assez novateur. Au final. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, on peut pas dépasser 1000 utilisateurs. On réduit à 700. Comme ça, on est un peu plus tranquille. Et pendant un an, on fait tourner avec les 700 qu'on a. Et on nous donne un an pour savoir quelle est la voie qui est la plus prometteuse. parce qu'on sait qu'on peut pas maintenir autant de cas d'usage et de personnalités, personas différents. Donc on se dit, on se laisse un an, on teste plein de trucs et on prend le celui qui a le plus de récurrence. Donc c'était vraiment agnostique du marché. Les deux pistes qui étaient les plus intéressantes, c'était YouTuber, streamer et entreprise. Vraiment, c'était ça allait ensemble. C'était deux choses complètement radicalement différentes. Et on s'est dit, allez, on teste les deux en parallèle. Et en fin d'année, on regarde quels sont ceux qui nous ont rapporté le plus d'argent, la meilleure récurrence. On pensait que ça allait être les streamers. On avait des bonnes relations avec certains streamers et on était vraiment devenu une solution assez de référence. On avait connecté en plus les boutiques à Twitch. Donc pendant que quelqu'un achetait un truc sur ta boutique, t'avais le t-shirt qui apparaissait sur ton feed Twitch. Donc les mecs pouvaient remercier et tout. C'était assez sympa. On s'est bien amusé avec cette communauté. C'est un univers qu'on a adoré découvrir. Et en fin d'année, en fait, on a été assez surpris. On s'est rendu compte que ce sont les entreprises qui étaient le marché le plus porteur.
Tu t'es basé sur quoi là-dessus? C'était des choses très concrètes, enfin des feedbacks. Enfin, c'était quoi?
Ouais, c'était facilité de signer un client. Enfin, donc et rapidité d'exécution d'un deal. Taille des deals, donc combien pouvait générer une boutique et récurrence.
Ok.
On s'est juste basé là-dessus en disant ok, si c'est facile de signer, enfin si c'est plus facile de signer un nouveau client, que ses clients nous rapportent plus et qu'en plus ils restent plus longtemps, donc c'est vraiment du basique. Hein. Mais là-dessus, on s'est dit ok, bah c'est que c'est en tout cas le marché qui nous paraît le segment le plus porteur.
Et les entreprises, tu les avais cherchées comment justement? Parce que là, t'avais pas cette communauté de Facebook avec laquelle tu pouvais faire du referral, c'était quoi? Tu t'allais les chercher en cold call, tu faisais des ads, enfin comment est-ce que tu as testé ce marché-là?
Ouais, on a beaucoup travaillé notre réseau personnel avec Maxime. Donc on faisait partie déjà du réseau Entreprendre, on faisait partie du MOVJI, le mouvement pour les jeunes entrepreneurs que je conseille. Enfin, les deux, je le conseille vivement d'ailleurs. Et du coup, on a fait énormément de networking. Dès qu'il y avait des salons, dès qu'il y avait des opportunités de faire des dîners, de rencontrer des gens, dès qu'on rencontrait une personne, on lui demandait de nous présenter encore d'autres personnes et tout. Donc c'était non-stop sur le terrain, vraiment de la vente. L'objectif à ce moment-là, c'était pas de créer une force de vente méga scalable, c'est juste de pouvoir avoir les premiers utilisateurs, les premiers clients cibles. Et ça, il y a rien de mieux que l'huile de coude, aller chercher. Envoyer des messages. Alors à l'époque, on n'utilisait pas Scaly, ce qu'on utilise maintenant pour un peu rendre scalable le démarchage via LinkedIn ou autre, mais c'était beaucoup de rencontres sur LinkedIn. Énormément utilisé le réseau des anciens d'HEC. T'as un super annuaire et donc on en a énormément profité. On a contacté énormément de gens, d'anciens alumni, beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes. Il y en a un d'ailleurs, on a vraiment mis du temps à l'avoir. On avait des séquences de mails qui pouvaient durer jusqu'à 7 ou 8 mails. Alors peut-être que maintenant, ça marche moins bien. En 2018, ça fonctionnait plutôt bien.
Ouais.
Et la personne, on a insisté un peu et le mec nous avait répondu en disant « En dessous de 5 mails, de toute façon, moi, je réponds pas. C'est que le mec, il a pas vraiment envie de me rencontrer.
» Ouais, je sais pas si tout le monde serait de cet avis.
Non,
mais...
je pense que c'est un mauvais conseil, mais j'avais beaucoup aimé l'anecdote. Je me suis dit « Bon, ok, la persévérance paye. » Alors, je pense que ça fonctionne dans un cadre de t'es pas en train de démarcher des clients, mais on était en train de démarcher plutôt des côtés mentors, conseils et des personnes qui étaient dans un réseau qui avait déjà réussi des entreprises par le passé. Mmh. Donc, quand on a approché ces personnes-là, c'était plus... Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça que moi, j'approche et au final, je fais du démarchage commercial. C'est je vais chercher des conseils. Je vais pas chercher... c'est ma façon... Enfin, je déteste vendre. Je pense pas être particulièrement bon pour ça non plus. Ce que je cherche, c'est de me dire, en tant que cofondateur, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des retours. Savoir, j'adore discuter avec quelqu'un qui me dit, ok, ça me plaît pas du tout, ça m'intéresse pas parce que c'est pas ma priorité, c'est pas là-dessus, ça répond pas à mes objectifs personnels. Ok, donc c'est quoi tes objectifs? Creuser les sujets, et ça m'intéresse parce que ça peut peut-être avoir ce que je vais sortir, c'est pas un deal. Mais je vais sortir une idée de fonctionnalité, une idée de nouveau marché à explorer, ou juste de me dire, là, tu perds ton temps avec ce segment. Et donc, quand je contacte des gens, je demande jamais, j'ai envie de vous présenter ma solution. Je demande toujours, j'ai besoin d'aide. C'est, je crois, d'ailleurs, le mail qui parle le plus de ma boîte mail, c'est besoin d'aide. ou sur LinkedIn en disant bah, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et je suis prêt à rémunérer ton temps. Et là, j'utilise Panoply pour ça, pour le coup. J'offre généralement un don de 30 à 50 euros à l'association du choix d'une personne qui me donne 15 minutes de son temps. Je trouve que le temps a de la valeur. Si tu étais panéliste ou autre, bah, tu peux être payé pour ça. Donc, à chaque fois que je contacte quelqu'un, il y a une réciprocité. Déjà, je lui demande si moi, je peux l'aider en réciproque par la suite. Et je sais à chaque fois que j'ai une dette envers certaines personnes. Et de l'autre côté, je leur offre les moyens. Donc, j'utilise Panoply, je génère mon lien cadeau avec un don de 50 euros. Et suite au rendez-vous, je leur envoie et je les remercie.
Trop bien, super intéressant. J'aime beaucoup ton approche networking. Bon, j'ai aussi beaucoup fait ça et je trouve que, alors c'est comme tu dis, c'est pas toujours quelque chose qui va rapporter du deal tout de suite, mais t'en retires une info, une idée, potentiellement une mise en relation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à gagner à utiliser ces approches.
Ouais, non, c'est des belles rencontres. Tu perds pas de temps en fait. À chaque fois, t'y vas et c'était alors je sais plus dans quel bouquin je l'avais lu, mais qui était le networking. J'en avais une très mauvaise image. Alors en plus avec le côté HEC, on nous rabâche le réseau très fermé ou autre. Et donc j'avais pas une très bonne image du réseau, que je trouvais quelque chose d'un peu quasi sectaire. Et au final, c'était sur un des bouquins de Guy Kawasaki, et il disait en fait le réseau, c'est rend le plus de services possible. Moi, j'avais vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, moi, j'adore, ça me va très bien avec ma personnalité, avec ma façon d'être. C'est rend service, discuter avec les gens et demande-leur comment tu peux leur rendre service, essaye de réfléchir, de les écouter. Et en fait, bah, ouais, t'as de la réciprocité, peut-être un moment, t'as rendu service à quelqu'un et des années après, où il va parler de toi à quelqu'un, il va se passer. Et ça fonctionne, en fait. Et t'es pas dans une approche shark, t'es dans une approche d'humilité. Ouais. D'écoute et de réciprocité.
Ah, j'aime bien. Pour moi, c'est un peu la mailing list, tu vois, offline, que aucun réseau ne pourra t'enlever, quoi. Ça, c'est.
Ouais, complètement.
Enfin, voilà. En tout cas, je te propose d'avancer parce que je trouve que c'est super intéressant le choix que vous avez fait. Donc, vous avez testé les deux marchés, YouTubeur et également entreprise. Les entreprises ont mieux répondu. Qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est quoi un peu les grandes actions?
Ouais, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, Balibar n'a plus de raison d'être. Parce qu'on faisait vivre et cohabiter la plateforme qu'on appelait Balibar, je sais plus comment ça s'appelait, MySpace ou un truc comme ça. Et le site de vente d'affiches et autres. Et on passait beaucoup de temps quand même sur la vente d'affiches. On faisait pas mal de deals qui étaient des deals sympas parce qu'on faisait aussi de la décoration d'hôtels et autres. On a décoré des très beaux hôtels. On bossait avec WeWork. On a fait énormément de décorations de WeWork au moment où c'était assez exponentiel de ce côté-là. Et donc à chaque fois, c'était des deals à 100, 150 000 euros. Enfin, cette boîte-là tournait pas mal. On approchait le million d'euros de CA. Sauf que en fait, tu peux pas avoir deux. Enfin, c'est compliqué d'avoir deux projets en même temps. On n'a pas réussi à le maintenir. Peut-être que certaines personnes y arrivent. Nous, en tout cas, on trouvait que c'était un défocus. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, l'énergie qu'on met à continuer à faire vivre cet autre projet, si on le met pour faire signer un deal Panoply, enfin un deal de création de produits dérivés d'entreprise, on signe des deals plus importants, plus intéressants. On a plus à gagner. Donc à ce moment-là, on s'est posé la question de est-ce qu'on vend cette activité-là. On avait été approché par une boîte qui faisait du cadre à ce moment-là, mais on n'est pas du tout accroché avec le gars. Alors, l'approche était assez fumeuse. Enfin, on savait qu'on allait se faire avoir, et donc on a préféré se dire allez, on prend même pas le peu d'argent qu'ils nous proposaient. Ça nous sert à rien. On va passer plus de temps là-dessus. Je préfère aller signer, prendre mon temps pour signer des deals avec la nouvelle structure que perdre du temps avec ça. Donc on a décidé d'arrêter du jour au lendemain et cutter une activité qui tournait un petit peu. Je pense qu'avec du recul, maintenant je sais qu'il y a des plateformes. Je pense à Alvo par exemple, qui permet de pouvoir déposer quand tu as un side business ou autre, et quand tu as un petit peu de traction des 100 000 euros ou autre. Donc je pense que si c'était à refaire, j'essaierais de pousser un petit peu ce côté-là avec des plateformes. À l'époque, ça n'existait pas. et on décide de se concentrer entièrement à Panoply. Là, on se rend compte qu'en fait, c'est une autre marque, c'est un autre outil. À la base, il avait été utilisé pour permettre à des artistes de vendre des œuvres. Alors, c'était plus, enfin, des éditions numériques. Donc, on était vraiment tourné autour du poster et autres, ce qui intéresse absolument pas les entreprises. Et du coup, on s'est dit, OK, c'est un nouvel outil, c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau positionnement. En fait, c'est un nouveau projet. Et donc, on se décide de dire, OK, ben, on kill Baliba. Maintenant, c'est Panoply. Donc, on travaille pas mal sur le naming, sur le positionnement, sur le site. On refond on savait que l'outil technique, était très limité. On kill tout ce qu'on avait développé sur PrestaShop et on repart d'une feuille blanche. Donc super excellent parce qu'on part d'une feuille blanche, mais avec déjà des clients qui utilisaient l'ancienne solution. Donc tous ceux qui sont pas des entreprises, on les sort.
Ouais.
Et on les laisse utiliser un outil qu'on sait pas super, mais bon, qui demande pas mal de support. Mais ça nous permet de continuer à garder un lien, de discuter avec eux, de mieux comprendre ce qu'il faut faire.
Et de financer aussi.
Comment ?
Et de financer aussi.
Et de financer aussi. Ouais, effectivement. Okay. Je crois que ça a coïncidé avec une levée de fonds qu'on avait fait. On avait levé 300 000 euros en 2018, justement, sur le pivot. Parce qu'on avait prouvé déjà une capacité en tant qu'entrepreneur à savoir faire un début de traction. Et ensuite, d'avoir déjà une technologie et autres. On avait été soutenus par des business angels plus BPI. Et évidemment l'activité qui te rapporte quand même un peu d'argent et qui est nécessaire au développement. Donc on commence sur Panoply là-dessus et on se positionne assez rapidement en fait comme une agence. Enfin, on comprend que la brique techno, elle a toujours été là chez nous, le côté une boutique et autres, mais que le gros du marché aujourd'hui, en discutant avec les entreprises, c'était que les gens achètent des produits que t'as pas envie de porter, que t'as pas envie d'avoir. Mmh. C'était des t-shirts à chaque fois mal coupés que tu utilisais plutôt pour faire des travaux chez toi ou que tu utilises en pyjama. Ah ouais, non, c'est tout le monde là, hein, ce t-shirt là, le t-shirt qu'on t'a filé à un event ou un truc, un stylo qui casse au bout de deux utilisations. Beaucoup de produits qui venaient d'Asie ou autre, où on s'en foutait de la traçabilité. Et c'est un moment où Max et moi, on se posait beaucoup de questions sur quelles étaient nos valeurs personnelles. On s'investissait beaucoup dans des assos, chacun dans notre côté. Et en discutant ensemble, on s'est dit, mais pourquoi on n'alignerait pas nos valeurs personnelles, nos motivations qui sont en dehors de la sphère de travail, et on les intègre pas dans notre société en disant, personnellement, on a un poids, mais en tant que dirigeant d'entreprise, on a un poids qui est démultiplié. Parce qu'il va toucher nos clients, il va toucher nos collaborateurs. Et donc, il y a un shift qui se fait en 2019, enfin, passer un an sur ce marché-là pour dire, on arrête de faire des produits, enfin, on n'en faisait pas beaucoup, mais on ne fait pas ce genre de produits, on va aller chercher la qualité et on propose d'être la première agence de produits responsables et de cadeaux d'affaires responsables. On rejoint le mouvement 1% for the Planet, on rejoint UN Global Compact, on commence à travailler notre traçabilité, on commence à travailler avec des marques qui n'avaient pas l'habitude de proposer des produits en B2B, et on leur propose de pouvoir gérer pour eux un développement B2B parce que ils ont des produits qui sont super intéressants, que les gens veulent avoir qui pourraient co-brander par des entreprises. Et là, ça prend assez fort. Parce que le positionnement est bon, il y a très peu, enfin il y a beaucoup d'agences, mais aucune agence qui sait faire du responsable ou qui se prend la tête de le faire. Mmh. Et une demande qui commence à exister de prise de conscience de j'ai envie de faire de l'européen, j'ai envie de faire de la France, j'ai envie de faire du bio, j'ai envie de et même si les entreprises ont pas tous ce budget-là, ils venaient nous voir parce qu'on était identifié comme l'acteur qui était pionnier sur ce marché-là. Mmh. Et donc on a développé cette société pendant 5 ans et là en 2022 on peut dire qu'on est le numéro 1 en France du cadeau d'affaires responsable en termes de chiffre d'affaires. On a dépassé 7 millions de chiffre d'affaires sur 2022. On est maintenant plus d'une trentaine de collaborateurs, on est passé société à mission, on fait partie des 1000 premières entreprises françaises société à mission. Mmh. Et on est en voie d'être B Corp, donc là-dessus et c'est 85% de notre catalogue qui est considéré comme responsable. Donc, soit Europe, soit France, soit en matière responsable. L'objectif étant que 100% de notre catalogue soit considéré comme responsable. Alors après, il y a des critères de responsabilité, mais c'est un des objectifs.
Donc là, en fait, tu as une boîte qui prend, je dirais, enfin à la hauteur de ce que tu veux. Ouais. 7 millions, 30 employés, et aussi un alignement, comme tu le disais, avec tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que derrière, tu as voulu shifter en 2022? C'était quoi le déclic pour vous?
Les signaux faibles, encore une fois.
D'accord.
ça change pas. Le positionnement d'agence et de savoir-faire de cadeau d'affaires responsable reste dans l'ADN de ce qu'on continue de construire. Donc, on est quand même, on utilise cette brique-là. On réinvente pas la roue non plus. Mais on se rend compte que beaucoup de nos clients ont moins envie. Enfin, tu vois, le côté, est-ce que je vais vraiment offrir des goodies? Est-ce que je vais vraiment en faire? Alors, soit c'est des sujets économiques, hein, d'ailleurs. Puisque là, ça coïncide avec le contexte économique. Beaucoup de gens qui coupent des budgets, c'est des budgets qu'on va chercher à couper. La réflexion responsable, est-ce que j'ai vraiment envie de faire des produits personnalisés? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en faire? Et même nous, de l'autre côté, quand on réfléchissait avec des clients, tu vois, la chose intéressante, c'est intellectuellement, discuter avec un client pour dire combien de tote bag tu veux et combien de sweat tu veux, c'est chiant. Enfin, intellectuellement, t'apportes zéro valeur. Au bout d'un moment, la valeur ajoutée qu'on avait créée de sourcer des produits ou autres a été pas mal copiée, pas mal. Beaucoup d'agences ont commencé à regarder où est-ce qu'on se fournissait, négocier avec les marques. C'était très compliqué d'avoir des exclusivités avec les marques là-dessus. On en a sur certaines marques. Et du coup, notre océan bleu commençait à devenir un océan rouge d'agences qui commencent à se dire responsables, qui commencent à attaquer comme ils le font si bien quand t'as pas de valeur ajoutée sur le prix, sur la marge. Et des clients qui se remettent en question et la réflexion de dire c'est bien de faire un produit qui est responsable. La réflexion maintenant à mon, elle est plus de, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce produit? Et je trouve super intéressant de regarder le marché dans les yeux et de se remettre en question et de se dire est-ce que l'avenir du marché est pas non plus de dire de ne pas imposer un cadeau et de réfléchir du pourquoi tu fais un cadeau. Le moyen reste peut-être l'objet. On peut continuer à faire du t-shirt, mais c'est pourquoi on a envie de le faire. C'est quoi la motivation intrinsèque? Et quand on tire la pelote, on se rend compte que c'est une question d'engagement et de fidélisation. Et c'est la seule problématique. Enfin, ce sont les deux seules grandes problématiques avec la récupération d'informations clés pour l'entreprise. Donc, tu as trois sujets qui coïncident parce qu'au final, si tu arrives à attirer des talents, attirer des clients, faire en sorte qu'ils restent, récupérer les bonnes infos, derrière, en fait, tu déroules, tu crées de la récurrence, tu crées de la croissance. Ce qui est, au final, ce qui est intéressant pour les entreprises. Et là, on commence à se dire, ce qui m'intéresse le plus, moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, c'est pas réfléchir au produit, c'est réfléchir à comment tu vas mieux engager, comment je rentre dans ton parcours client pour apporter de la valeur à ton client, à ton process sales, à ton process support. Et derrière, on va peut-être mettre une petite attention, pas obligatoirement, ça peut être de la gamification, ça peut être des points après sur une boutique. Mm-hmm. Et catalogue de produits, on s'est dit, mais pourquoi on fait que du personnalisé? C'est intéressant, c'est important, mais pas que. Donc, on a énormément travaillé sur un catalogue de produits, de dire, qu'est-ce que tu as, t'aimerais recevoir? Si c'est Noël, qu'est-ce que tu as sous le sapin? T'as pas un truc imprimé avec le logo de ta famille, j'en sais rien, enfin si, tu pourrais... Mais l'envie que tu as, c'est plutôt des choses que tu aurais envie de t'acheter pour toi. Et donc, on travaille ce catalogue sur qu'est-ce qui peut apporter de la valeur aux bénéficiaires. D'où on est les premiers à proposer des cours en ligne. Tu peux offrir des cours en ligne là-dessus. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, je te valorise et j'ai envie que tu aies un développement personnel, tout ce qui est autour du bien-être, ce qui est aussi du don aux associations. De pas imposer un cadeau et de laisser le choix aussi aux personnes de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Et on se rend compte qu'en fait, ça va vraiment dans la mouvance, que le discours, c'est on veut arrêter le gaspillage, on veut arrêter de faire du produit pour faire du produit. Et c'est la next step, en fait. Et c'est pas facile parce que quand tu sais que toi, tu vis de la vente de produits, te dire qu'il faut que tu embrasses cette réalité qui est on arrête de faire du produit, ou du moins, le discours, c'est plus on en fait moins, mais mieux. Et donc, on a commencé en créant, par exemple, le lien magique où tu n'imposes pas un cadeau, tu présélectionnes les éléments, tu l'envoies et tu le rends dans ton parcours collaborateur ou client qui est envoyé par HubSpot et la personne choisit.
Tu vois, là, tu parles du lien magique. J'allais justement te demander comment est-ce que tu fais le lien entre ce constat et comment est-ce que tu fais pour valider tes intuitions sur la base de ce constat? Qu'est-ce que vous avez, jeté comme ligne à la mer pour valider ces intuitions et vous donner des éléments concrets pour derrière pivoter?
Ouais, beaucoup de discussions avec nos clients et notamment sur les clients qui fermaient des portes. Moi, je trouve que c'est au final ceux qui sont les plus intéressants et de se dire, ok, bah là, on va bloquer nos budgets sur les goodies salon. D'accord, ok, bah là, ça m'intéresse parce que j'ai envie, de creuser le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu pourrais offrir sur un salon? Est-ce que offrir des dons, par exemple, à des associations? Est-ce que tu veux avoir des leviers pour récupérer des mails ou des personnes qui vont s'inscrire? Est-ce qu'en créant peut-être un challenge pendant le salon où tu vas pas offrir et distribuer une multitude de choses, mais peut-être que tu vas laisser un iPad avec une landing où la personne met son prénom, son nom et il y a un gros cadeau à la clé qui est tiré au sort. Mais toi, tu as un outil pour récupérer des personnes et derrière, il te faut un outil qui va te faciliter l'envoi. Et donc, tu rediscutes et c'est ok, bah en fait, c'est pas un budget cadeau goodies, on est sur un plateforme ou une outil de récupération sur un salon de personnes qui vont s'inscrire ou de leads. On n'est plus sur la même discussion, on n'est plus sur le même budget. On est sur un budget marketing, on n'est pas sur le budget cadeau qui a été bloqué. Le lien, c'est quelque chose où, en fait, c'est arrivé, c'était pour un de nos clients qui a voulu envoyer 100 cadeaux à ses top clients. L'attention est bonne, on fait un super cadeau, tous les produits sont responsables dedans. Enfin, vraiment, c'est très qualitatif. On l'envoie à 100 personnes et sur les 100 personnes, t'en as une qui nous envoie un mail incendiaire. Mais vraiment, on se fait pourrir. Le client se fait pourrir et nous aussi en disant « J'ai jamais sollicité de recevoir ce cadeau. J'ai jamais eu envie de le recevoir. Vous m'envoyez des produits dont je n'ai pas besoin. Vous êtes en train de pourrir la planète. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est non sollicité, qui ne me fait pas plaisir, au contraire. Et là, on a pris une prise de conscience énorme. C'était un envoi parmi les centaines de milliers d'envois qu'on fait. En fait, ce retour-là, il était tellement important pour nous parce qu'on se dit, mais oui, c'est vrai, on va pas imposer, on va pas faire envoyer obligatoirement. En fait, il faut laisser le choix. Et donc, on discute avec ce client-là qui lui arrive furax en nous disant, attendez, vous nous dites que les cadeaux, c'est super et tout. Bah ouais, en fait, aujourd'hui, dans la mouvance, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir, qui ne veulent pas consommer. Et ils ont raison. Et donc, tu ne dois pas imposer. L'autre cas d'usage qu'on a eu, c'est il y a beaucoup d'entreprises qui adorent envoyer de l'alcool à Noël.
Ouais.
C'est un des cadeaux du champagne, des spiritueux. En fait, quand on a fait des retours, donc nous, on a introduit, quand les gens reçoivent des cadeaux, on avait introduit des NPS pour savoir un peu et traquer, est-ce que les gens sont contents ou autre. Et on se rend compte, sur une opération, on avait envoyé du champagne, en disant super cool, c'est du très bon champagne et tout, avec un petit mot. Bah, on avait quand même 20% des gens qui nous avaient répondu avec un sale NPS pour le client. On dit, mais attends, pourquoi? Bah, non, je bois pas d'alcool, je suis musulman, j'ai arrêté de boire, enfin, t'as même des trucs. Enfin, on avait reçu un message avec quelqu'un qui me dit, mais je suis ancien alcoolique. Enfin, c'est pas vraiment. Tu t'es pas intéressé à la personne parce que t'as voulu faire un truc de batch. Et du coup, avec ce client, on a retravaillé notre copie et on a fait un lien cadeau qui est envoyé. Donc, c'est une petite carte écrite à la main avec un QR code qui débloque le cadeau. Quand tu regardes le QR code, en fait, tu as le choix entre plusieurs cadeaux et donc une bouteille de champagne, mais aussi d'autres choses. Et le don aux assos. Et donc c'était ces retours-là en fait de bénéficiaires et destinataires de cadeaux qui nous ont monté. Le cadeau était non sollicité, ou je n'en voulais pas, ou ce n'était pas adapté, ou là on m'a encore offert quelque chose que j'avais déjà reçu dont j'en ai pas envie. Et donc on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin et qu'on laisse le choix aux destinataires. Donc on développe la première brique technologique qu'on avait développée, on va dire, c'est que on a un centre de logistique en Seine-Saint-Denis. Nos bureaux sont dans le 93 et donc on donnait la possibilité aux clients de regarder leur état des stocks en temps réel et de pouvoir faire envoyer des cadeaux rapidement en quelques clics. Ça, c'était la première brique tech, mais tu vois, c'est plus un enabler que vraiment un outil que tu payes. Enfin, c'est pas un SaaS, quoi. Et là-dessus, on se disait, bah, ok, mais en fait, maintenant, quand tu vas envoyer un cadeau, t'es plus obligé de l'envoyer juste en direct, tu peux laisser le choix. Et première itération, ça plaît très bien. Maintenant, je crois que un envoi sur deux part en lien magique. Et sur les plus de, donc on l'a lancé en 2022, et c'est plus de 40 000 liens magiques qui ont été envoyés sur 2023. Et en fait, sur les 40 000 liens magiques qui ont été envoyés, ce qui est assez drôle, c'est que t'en as 20% où les gens ils commandent pas, ils utilisent pas, et t'en as 20% où les gens préfèrent faire un don. Donc quand tu avais l'alternative don, les gens prennent un don. Et on se dit, un des messages qu'on essaie de véhiculer, c'est arrêter de gaspiller 40% de votre budget cadeau. Ça c'est sert clair. À rien. En fait, il y a déjà 20%, tu l'as pas dépensé. Tant mieux pour toi. Donc tu peux te positionner sur des cadeaux un peu plus quali. Et 20% qui partent en dons, qui sont en plus des deux types des impôts de la boîte. Donc tant mieux, quoi.
Donc en fait, t'as écouté tous ces signaux faibles, tous ces détracteurs, et t'as construit au final des mini features. Quand je dis mini, c'est parce que c'était pas un produit en tant que tel, mais du coup, t'as déjà testé les liens magiques, puis après, t'as intégré d'autres fonctionnalités pour derrière te dire, ok, j'ai un truc qui répond en tout cas aux différentes envies du marché. Et à quel moment tu fais la bascule, je dirais, complète avec le SaaS, et tu dis, ok, maintenant c'est bon, on a récolté assez de feedback, on va lancer en full SaaS.
Début 2023, en fait, on a pas mal amené de nouvelles petites fonctionnalités. Donc tu avais le lien magique. Après, comme on avait historiquement le système de boutique, on a commencé à nous dire, ah mais j'aimerais bien pouvoir inviter mes membres, faire en sorte que la boutique soit fermée. Au lieu qu'ils dépensent de l'argent pour acheter des choses, on pourrait pas leur donner des points. Mmh. Ah, pour leur donner des points, est-ce que je pourrais le faire depuis Slack? Est-ce que je pourrais connecter mon SIRH pour commencer à faire? Et donc là, tu commences à rajouter de la brique tech, et la prise de conscience se fait, en début d'année, où on se dit, mais en fait, on est un outil d'engagement. On n'est plus une agence d'objets personnalisés. Effectivement, la brique récompense reste une brique importante pour nous. Mais que le client envoie une box bien-être, du massage, un cours en ligne ou un sweat imprimé, nous, ça nous revient au même. On va pas se battre pour un produit plutôt qu'un autre. Au contraire, s'il préfère envoyer du don, on est très content et ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, mais en fait, ça va changer le paradigme de la boîte. Et c'est assez compliqué parce que quand t'es 5, pivoter, ce qu'on a pu vivre avec Balibar, on était peut-être 7 dans l'équipe, dont 2 stagiaires, donc c'est simple, quoi. Tu t'en parles une fois, deux fois, on discute, tout le monde est aligné. Là, à ce moment-là, on était quasiment une quarantaine de personnes début d'année, et tu fais bouger un bateau, quoi. C'est un bateau plus important. T'as des gens qui y croient, t'as des gens qui y croient pas. T'as des gens qui ont envie d'aller vers ça, d'autres qui disent mais attends, mais si on va faire ça, on va avoir un discours de dire aux gens envoyez moins de cadeaux, mais on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis.
Comment est-ce que tu remobilises tout le monde à ce moment-là, et est-ce que du coup ça t'a amené à faire des choix difficiles, ou en tout cas de voir partir des gens que t'appréciais, qui étaient là mais qui croyaient pas à cette nouvelle vision?
Complètement. Ça c'est un de nos investisseurs qui on est pas mal coaché par nos invests, ça c'est assez chouette. Un de nos investisseurs qui utilise la métaphore du train, que j'aime beaucoup et qu'on utilise même en interne, donc on en parle souvent. Une entreprise c'est un train pour cette métaphore. Et il y a plusieurs arrêts. Et en fait, tu as plusieurs destinations, tu as plusieurs moments, et à chacun de ces arrêts, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Et c'est pas grave, et c'est normal, et ça fait partie de la vie de la boîte. Et il y a des moments où la destination suivante va pas aller dans l'envie d'une personne. Peut-être que la personne, personnellement, elle se sera développée, elle aura déjà atteint toutes les compétences qu'elle avait ou volonté qu'elle voulait avoir. Et en fait, on arrive à cet arrêt-là, et à cet arrêt-là, elle se dit vas-y, je fais le bilan. En fait, j'ai déjà pris tout ce que je voulais prendre. C'est le moment pour moi d'aller explorer quelque chose. Donc déjà, on a beaucoup insisté sur cette métaphore. Donc c'est énormément de communication interne, énormément de politique interne, chose que je connaissais un petit peu moins. Quand t'es une boîte de 10-15, c'est pas du tout la même chose qu'une boîte de 30-40 personnes. Tu te répètes constamment. tu es tout le temps en train de vendre en interne, de faire des présentations. Tu vas taffer des présentations internes pour pouvoir présenter quelque chose, pour que les gens adoptent un discours, adoptent un mindset. Tu dois changer tous tes rituels. On a des rituels qu'on utilisait, donc les rituels, par exemple, on a une réunion tous les lundis. Comment on l'introduit pour mettre une dominante plus produit tech, présenter la nouvelle fonctionnalité de la semaine, mettre plus en avant un cas d'usage client qui utilise des briques tech chez nous, présenter des use cases qu'on a imaginé qui pourraient utiliser la solution auquel on discutait avec des clients. Pour commencer à créer ce mindset-là, on a changé beaucoup de nos équipes. Maintenant, on travaille en sprint planning. On a copié le sprint planning de notre équipe tech qui était déjà sous ce modèle-là, avec une rétro toutes les deux semaines, un sprint planning en début des deux semaines, et après ensuite, tous les matins, un petit point, une daily de 5 minutes qu'on a réintroduit. Donc, on a formé chacun de nos managers qui eux-mêmes ont formé leurs équipes pour adapter en fait un mindset beaucoup plus lean, beaucoup plus agile. Donc c'est vraiment une culture différente qu'il a fallu construire. Et t'as des personnes qui sont pas du tout retrouvées dans cette culture-là. Et ces personnes-là, pareil, c'est de la transparence, c'est de la discussion, prendre du temps de discuter avec tout le monde, écouter les signaux faibles. Quelqu'un que tu vois un peu râler le midi, en soirée, qui va être un peu plus moins enjoué que ce qu'il était avant. Tu vas avoir le ton dans les messages Slack ou autre. Et là, il faut identifier ça, discuter avec la personne. Désamorcer le côté que quitter une entreprise, c'est pas si grave. Tout le monde le fait. Même moi, Panoply un jour vivra sans moi, et tant mieux. Et donc que c'est pas que la personne n'est pas en train de vous planter un couteau dans le dos. On a un esprit assez fort. Enfin, c'est très fort chez Panoply. Et beaucoup de gens, quand on en discute, étaient mais je vais vous trahir en fait si je pars. Non, tu nous trahis pas du tout. Enfin, tu sais, t'as des objectifs personnels. Peut-être que tu les as atteints. Peut-être que la vision te convient moins. Bah, c'est pas très grave. C'est peut-être le moment et on va t'accompagner. On va réfléchir avec toi en quoi t'as envie de te développer ou autre. Donc, on a eu des départs qui sont très bien passés. On est super content de ça. Ça, c'est une grande fierté, un des objectifs qu'on se fixe avec Maxime. Et on considère que c'est un succès de boîte si les gens qui partent sans rancœur. Et donc, c'est un objectif qui est essentiel pour nous. On l'a mis dans les valeurs de transparence là-dessus et de confiance. Et c'est une mesure de succès pour nous de se dire si à la fin de l'aventure, on sait qu'on n'a pas eu de rancœur et que personne n'est parti sans avoir dit tout ce qu'il avait à dire, c'est que c'est déjà un succès. Tu te quittes plus ou moins bien, évidemment. C'est toujours des moments, c'est des courbes de deuil. Donc, il y a de la tristesse, évidemment. Mais ça veut pas dire que tu pars avec de la rancœur.
Et comme t'as dit, après, il y a aussi, ça se passe bien, mais t'as les personnes avec qui ils avaient créé du lien qui restent. Derrière, faut aussi réussir à gérer tout ça. Donc t'as beaucoup.
T'as du lien humain, ouais.
Ouais. C'est quoi un peu tes learnings, ou les conseils que tu peux partager là-dessus sur toute la communication autour de la conduite du changement, les choses que t'as appris.
La première, c'est tu te répéteras jamais assez. Donc, t'as besoin tout le temps, constamment, de te répéter. Tu vas être à un déj avec l'équipe, bam, tu vas en reparler du SaaS. Tu vas présenter la réunion du lundi. Tu vas mettre en avant des métriques tournées autour de ça. Donc, en fait, t'es constamment en train de pitcher en interne. Et tant que t'as pas pitché en interne et que les gens n'ont pas incorporé le discours, tu sais que de toute façon, ça marchera pas pour les clients. Savoir donc laisser partir aussi les personnes qui n'ont pas envie d'accompagner ce changement-là. Accompagner ceux qui hésitent ou qui se posent des questions et ne pas avoir peur de faire face aux questions. Nous on avait mis même des sessions où on savait pas les questions à l'avance devant toute la boîte. On est avec Max et on est passé au grill et n'importe qui peut poser n'importe quelle question. Et donc tu peux te prendre des questions vraiment dures.
C'était quoi la plus dure? Tu l'as en tête?
Est-ce que attends, C'est plus sur des personnes, sur est-ce que ça veut dire que mon département va disparaître et que moi je vais être amené à partir devant tout le monde. Et tu sais que dans ta tête, en tout cas, ce département doit évoluer. Et donc, un peu contre-pied, ok. En fait, dans la conduite du changement, t'as aussi le changement de structure, on va dire, de hiérarchie. Tu dois repenser les rôles et responsabilités. Tu dois repenser les départements, l'organisation interne, qui travaille avec qui. Et donc, ça, c'est un impact fort. Faut que tu l'aies bien taffé en amont pour être sûr de, ok, si je mets un tel qui va manager ce pôle, si je dois merger ces deux pôles, qui doit prendre la direction? Comment je le dis à une personne que ça va être une autre personne qui va maintenant la manager alors que tu étais indépendante? Prendre les avis de tout le monde, énormément. Écouter quelles sont les envies pour pouvoir au mieux adapter les job descriptions, les rôles et responsabilités des uns et des autres. Et après, être transparent. Parfois, tu sais pas. Donc, de pouvoir accepter de dire « je sais pas, on y réfléchit ». Je note la question, elle est vraiment très importante. Donc toi, tu fais comprendre à ton interlocuteur que tu l'écoutes, que c'est important, tu le notes et que tu reviens et tu lui dis quand est-ce que tu reviens vers cette personne-là. Ça, c'est super important et tu t'y tiens parce que c'est ce qui va créer de la crédibilité, de la confiance, parce que t'es fiable là-dessus. Et après, c'est ce qu'on a beaucoup mis, c'est l'autre outil de management que j'adore, qu'on a intégré cette année, c'est la culture du test. C'est de dire,
je peux développer, vas-y.
Ouais. Alors c'est très simple, hein. C'est vraiment d'utiliser cette phrase. Allez, viens, on teste. Viens, on essaye. T'es pas en train de dire, on va faire ça. Je suis jamais en train de dire à un manager, maintenant tu vas prendre, on va merger ces départements. C'est comme ça que ça va se passer. Déjà, tu l'écoutes, t'écoutes ses éléments, pourquoi il a envie, est-ce que ça coïncide avec son développement et ses envies. Tu discutes avec les autres personnes, et une fois qu'on va mettre ça en place, tu dis, ok, on va tester cette organisation pendant longtemps. Et voilà ce qu'on attend en sortie comme indicateur de réussite qui va nous permettre. Donc, tu fixes une deadline et tu fixes une mesure de réussite. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tu demandes l'accord de tout le monde si tout le monde a envie de rentrer dans cette phase de test. Et après, de pouvoir dire on a testé te permet de dire on évolue, on adapte, on change. La mesure de d'efficacité, l'indicateur de performance nous a indiqué que non. C'est pas grave. On teste autre chose. Mais ça change complètement la façon dont est abordé le travail et les missions ou autres. Donc à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va être dans « on teste ». Et donc, c'est vraiment devenu le maître mot, je crois, 2023. Toutes les équipes se sont appropriées le « on teste, on va voir ». Mais en revanche, un test, c'est pas juste « on fait comme ça et on pilote rien ». C'est « ok, qui est responsable ? Quelle est la mesure de succès ? Quelle est la deadline à laquelle on regarde si la mesure de succès a été atteinte ?» Donc, on a réintroduit énormément tous les éléments de RACI, autres responsables, accountable, constructed et informed, aussi pour que chaque projet soit mené avec tous ces éléments-là, documentés par écrit. Une date de fin de projet, donc là, on récupère un peu le côté sprint planning, on fait des rétros. Donc, on a introduit des méthodos de rétro vachement assez sympas, que moi, j'aime beaucoup aussi, là-dessus, qui nous permettent après de refaire un point et de se dire, OK, ça a marché, qu'est-ce qu'on réadapte, qu'est-ce qu'on change, ça a pas du tout marché. Et donc, t'imposes pas, tu permets de co-construire le changement. Et les gens, une fois qu'ils ont, pour qu'un changement marche, il faut que les gens s'approprient le changement. C'est ton enjeu en fait.
Je me notais un point sur l'organigramme justement, co-construire le changement, l'organigramme. Comment est-ce que tu l'as repensé justement avec ce switch entre service et produit? Est-ce que tu as été plutôt, tu as été dans un mode consultatif? Comment est-ce que t'as arbitré là-dessus? Je suis curieux d'avoir des petits détails.
Ouais, bien sûr. Alors on a énormément. Alors on a nommé un codir, ce qu'on n'avait jamais fait en début d'année, avec des managers clés dans chacun des départements. Et avec ce codir, on a pu bien travailler déjà le discours et après travailler l'organigramme. La difficulté pour qu'un codir fonctionne, c'est que les gens enlèvent leur casquette. De je suis directeur ou directrice des account managers ou commercial, et donc tu as de temps en temps envie de défendre ton pré carré. L'idée, c'est que les gens enlèvent en fait ces casquettes-là pour discuter sur au niveau de la boîte, c'est quoi les objectifs principaux. Donc on, déjà le premier travail, c'est est-ce qu'on a une vision claire, est-ce que la mission elle est bien définie, est-ce que nos OKR, donc nos trois objectifs principaux de boîte, sont définis, est-ce que tout le monde les a bien en tête, ce que ça veut dire pour les départements. Maintenant qu'on a défini tout ça, quelle est l'organisation la plus efficiente qui permettrait d'arriver à nos objectifs. Donc ça, c'était important. Et après, comme on passait d'un modèle un peu agence à un modèle plus tech, j'ai énormément travaillé avec notre CTO Benjamin, que je salue parce que c'est Benjamin qui nous a fait nous rencontrer, Eric.
Que je salue aussi parce que c'est un auditeur assidu du podcast.
Et qui, en parallèle de Panoply, a créé un super side project qui s'appelle Memoriae, que je conseille à tout le monde, que moi j'utilise aussi, qui permet de pouvoir enregistrer toutes les lectures que vous avez, tous les éléments qui vous permettent d'enrichir en fait une base de contenu, et qui derrière va utiliser cette base de contenu pour générer automatiquement des posts LinkedIn et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi cette culture de l'entrepreneuriat importante pour Panoply. On est super content de se dire qu'il y a des classes d'entrepreneurs qui rejoignent Panoply et qui derrière vont monter leur boîte ou développent des side business.
Je mettrai le lien dans la description en vrai.
Et du coup, non, et Benjamin nous a énormément aidé parce que il a énormément travaillé sur l'approche Lean et l'agilité. Il s'est énormément renseigné. Enfin, il était déjà assez expert sur le sujet. Et du coup, c'était comment on réutilise, on réintroduit tous ces concepts-là sur les différentes départements. Donc ça, c'était super intéressant. Donc c'était consultatif. On a quand même, quand on a nommé le CODIR, explicité. Donc à chaque fois qu'on crée une mission, qu'on fait quelque chose, on va mettre les rôles et les responsabilités. Super important de le définir. Sinon, t'as vite fait de te planter. Nous, on a défini 7. Enfin, t'as une échelle de rôles et responsabilités. T'as 7 niveaux de délégation. Le premier, c'est je te dis quoi faire, je t'explique pas. Le deuxième, je t'explique, mais je te dis quand même quoi faire. Troisième, je te consulte et je te dis quoi faire. Quatrième, consensus, bon, ça marche jamais, ça. Cinquième, tu me consultes et tu me dis quoi faire. Après, tu m'expliques et tu fais, ou sinon tu fais tout seul. Et donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec Max, on va définir à quel niveau on est, pour qu'on sache exactement, et les gens savent où ils sont. Et donc, ça permet, c'est un outil qui est très utile. C'est 7 niveaux de délégation que tu peux utiliser tout le temps avec n'importe qui en entreprise, pour des managers, pour des managers ou autres, pour pouvoir dire ok, là en fait on est à un niveau 3 et là ce que tu viens de faire, t'es passé direct à un niveau 5. On peut arriver à un niveau 5, mais pour arriver à ce niveau 5, il faut que typiquement, je sais pas, pour le produit, te dire est-ce que l'équipe produit peut d'elle-même décider des nouveaux écrans et des nouveaux briefs. Pour l'instant, moi, j'ai envie de garder encore un petit peu la main en tant que CPO aussi. Mais à partir du moment où on a une base user tellement forte qui nous donne tellement de feedback client, en fait, le produit va récupérer une data qui est beaucoup plus intéressante que mon propre avis. Et dans ce cas-là, on passe à un delegation qui peut être « je te consulte, voire je t'explique ». Et j'ai aucun problème pour ça. Donc, quand on a créé le CODIR, on s'est dit « ok, quel niveau de delegation on place ?» Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est le niveau 3. On vous consulte, mais ça reste Maxime et moi qui décidons. Une fois que c'est dit et accepté, on va énormément consulter, faire des points, comprendre quel organigramme on doit mettre en place, quels sont les indicateurs de succès, de réussite de chaque département, quels sont les rituels qu'on doit mettre en place qui permettent d'aligner tout le monde dans ta semaine de travail et autres. Ça nous permet de pouvoir aligner tout ça. Évidemment, si tu dis aux gens que tu les consultes et que tu prends pas leur avis, ça ne marche pas, t'as pas d'adhésion. Donc si tout le CODIR était de toute façon contre une décision de Max et moi, ça ne marche pas. Donc même en donnant le côté consultatif, tu donnes énormément de pouvoir aux gens, et tant mieux. Donc ça a été super, enfin la constitution du CODIR a été énorme, et on a été accompagné par le réseau Entreprendre là-dessus. On fait partie du programme Ambition, qui est un programme, donc il faut faire plus d'1 million de chiffre d'affaires, avoir plus de 15 employés et être sur une forte croissance. Et ça te met à disposition 3 super mentors qui n'ont pas de part dans ta boîte, et qui t'accompagne. Alors au début c'est tous les mois pendant un trimestre et après c'est une fois par trimestre dans un comité stratégique de pilotage et qui t'aide sur tous les sujets de changement de posture en tant que dirigeant, dirigeant cofondateur où tu fais tout à posture de chef d'orchestre. Et donc c'est un super réseau qui nous a beaucoup aidé sur la constitution du CODIR, sur tous ces éléments là que je te donne depuis tout à l'heure, de management, de delegation board, de culture du test, de métaphore du train ou autre. Je l'ai pas inventé, c'est quasi coach qui nous ont aidés et qui ont changé la culture d'entreprise. On passe j'ai l'impression d'une boîte déjà beaucoup plus structurée dans le management. Moi, je croyais que ça s'apprenait pas, que t'étais manager ou pas, ou tu le sentais. En fait, pas du tout. Ça s'apprend clairement. Il faut pas sous-estimer cette partie-là.
Super intéressant. Sur la partie management, ça me parle beaucoup. Ça me rappelle quelques années à l'armée. Donc ouais. Sur l'organigramme aussi, un point sur lequel je voulais rebondir, parce que t'as toujours la partie legacy dans ton activité. Comment est-ce que t'as pris ça en compte dans la constitution de ton organigramme? Comment est-ce que t'as pris ça en compte pour répartir, on va dire, les moyens aussi que tu alloues au quotidien?
Alors ça, c'est peut-être une erreur qu'on a faite cette année, donc tu fais bien de le poser. En voulant pivoter, on est allé à fond sur le nouveau modèle on a un peu lâché le legacy. Justement, en fait, on s'était dit comme la dernière boîte, quoi, on peut pas faire deux choses en même temps. Et donc, on est à la fond, mais vraiment très rapidement côté marketing, positionnement. On a refondu notre site, notre discours, toute notre démarchage et autres tournés sur la plateforme SaaS. Alors qu'à ce moment-là, on était en train de la reconstruire. L'outil était pas du tout prêt, mais on avait un côté plutôt, on en parle, plutôt on le met en place, plutôt on met en signal les clients au moment où on en a besoin. Et on a complètement abandonné ce qu'on savait faire, à savoir du produit, enfin le côté agence de cadeau d'affaires responsable. On l'a beaucoup moins mis en avant. Nos commerciaux, on les a plutôt tournés, nos meilleurs commerciaux, on les a tournés en commerciaux plateforme. Donc on a formé un discours SaaS, mais sur lesquels ils étaient plutôt habitués à un discours plateforme. Et du coup, ça a eu pas mal d'impact parce que on a un peu, j'arrive pas à trouver le mot sans être vulgaire.
Tu sais qu'il y a pas de montage, hein.
Ouais, c'est pour ça. On a complètement abîmé tous nos leviers d'acquisition, tout ce qu'on avait en fait construit. On est parti et au lieu de faire quelque chose qui est raisonnable, qui est tu gardes 80% de ce qui fonctionne bien, c'est ton pilier, tu le gardes, tu le maîtrises et tu investis 20% dans ce que tu as envie d'explorer. Nous, on a plutôt fait l'inverse. On a mis 80% des moyens sur le nouveau truc, on a laissé 20% des ressources sur l'ancien. Donc, on n'a pas assez démarché sur le sujet. En changeant complètement notre site, on a abîmé notre SEO. Parce qu'on a beaucoup de gens qui venaient par des fiches produits ou autres. Et après, derrière, en fait, on arrivait à les amener sur la plateforme. Et on s'est dit, non, on va les amener directement par de la plateforme. Alors qu'en fait, ça reste une vente où la première fois, si tu veux avoir une opération de cadeau, d'engagement ou autre, tu viens généralement sur, j'ai une première opération à faire. Typiquement, les auditeurs seront peut-être en 2024 ou autre. Nous, on est en plein novembre dans les périodes des cadeaux ou dans les vœux. Et donc, il y a le côté, je viens pour une première opération, je vais faire du dispatch, je vais envoyer. La récompense reste une clé, enfin ce que la personne va recevoir en bénéficiaire reste quelque chose d'essentiel. Même si on passe sur un modèle beaucoup plus SaaS, on a quand même une de nos piliers reste l'objet ou l'expérience, ou en tout cas le cadeau ou la récompense. Et ça, il faut pas le perdre de vue. Et on l'a un peu perdu de vue en voulant virer de bord trop rapidement. Et en fait, moi j'adore le bateau. Il faut, quand tu fais un virement de barre, donc quand tu pivotes, il faut un mouvement de barre assez franc pour si tu veux que ta voile passe. Mais si tu fais trop franc, bah hop, là tu pars dans un empannage sauvage et là c'est vraiment violent. C'est un peu ce qui s'est passé cette année. On a voulu pivoter trop vite à un moment où technologiquement on n'était peut-être pas prêt. On a lâché des fondamentaux qu'on avait qui étaient le produit ou qui nous permettait quand même de signer des clients, qui était un premier deal, et après, un premier pas dans la porte, les gens, tu les amenais sur la plateforme. Dans un contexte qui était un contexte économique très mauvais. Cette année, ça a été très difficile. Donc nous, on a recruté, investi, pivoté, lâché les fondamentaux dans un moment où le contexte où les clients étaient plutôt dans un mode, alors en plus on a 70% de notre portefeuille client qui est des boîtes Next 40 les FT, je sais plus, 120, enfin voilà.
Ouais.
Et donc eux, ils ont pris tous un mur là avec les levées de fonds et autres. Donc on a les fondamentaux des clients qu'on avait qui dépensent 30% de moins dans un moment de pivot. Donc ça a été une année très compliquée, année de changement en plus organisationnel. Donc tu passes beaucoup de temps en interne, pas sur le terrain. Et donc c'est alors qu'à un moment ça, tu devrais être plus sur le terrain et tout. Donc je crois que c'est l'année la plus challenging que j'ai eue en tant qu'entrepreneur. Et là maintenant, on commence à avoir, voilà, on a retrouvé un équilibre, on a ramené le bateau dans une autre direction. On continue de parler des récompenses, on continue de parler du catalogue, on remet en place tout le SEO qu'on avait construit sur nos fiches produits. On considère aussi que la récompense peut être un levier d'acquisition derrière de plateformes. On a pu aussi retravailler toute notre tech. Donc là, on a une tech canonissime on avait de la dette technique sur les autres produits, la première cœur API qu'on avait développée datait de 2018. Là, on est passé sur Next.js, Vercel, sur plein de nouvelles, une nouvelle stack vraiment très excitante. On a tout refondu. On a une équipe qui a méga bien délivré cette année. Et je les félicite encore. Et du coup, là, depuis septembre, on a enfin la plateforme qu'on est en train de vendre depuis janvier avec nos bâtons de pèlerin. On a trouvé le bon mix entre parler de cadeaux et parler de récompenses et de stratégies d'expérience collab et de parcours client. Et on a l'équipe qui est complètement alignée sur la vision et ce qu'on a envie de construire par la suite. Ça a demandé pour bouger le bateau 9 mois. Et donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en tête si vous êtes une boîte qui est déjà bien avancée, qui a déjà une structure. Plus vous êtes gros, plus la conduite du changement va être important et plus un changement radical peut vraiment foutre le bordel aussi dans vos équipes. Donc il faut bien travailler chacune des strates, des discours, que les gens l'adaptent, que ça vienne aussi des managers, que vous ayez co-construit ensemble ces stratégies-là, vous ayez des champions en interne qui sont prêts à les vendre à d'autres personnes, et c'est ce qui vous permet après de pouvoir bien rebondir et bien pousser, mais ça demande du temps, et ça c'est aussi l'autre truc à avoir en tête, c'est qu'on a l'impression qu'en un mois on va dire bah maintenant on fait ça et tout le monde est aligné, non, ton bateau il bouge tranquillement petit à petit.
Et tu l'expliquais très bien au final, mais sans le dire, c'est qu'au final, tu dois aujourd'hui retrouver ton product market fit avec ce nouveau produit. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu vas chercher tes users? Tu reparlais de reconstruire le SEO, tu reparlais aussi d'aller les chercher à la main. Enfin voilà, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu t'y prends aujourd'hui là-dessus et comment est-ce que tu le vis aussi, le fait de d'avoir un business qui tourne à la base et de devoir repartir quelque part de zéro et de retrouver ce PNL.
Je pense que un des éléments, c'est qu'on a réaiguillé, tu vois, comme je te disais, il y avait 80% sur le nouveau, 20% sur l'ancien, on a peut-être un peu plus réaiguillé sur OK, qu'est-ce qu'on sait déjà faire, qu'est-ce qui fonctionne bien, on continue, on met des moyens dessus. Ça c'est, je veux dire, on a une boîte qui est rentable, donc il faut qu'on continue de l'être. C'est-à-dire on va perdre de l'argent pour la première fois depuis 4 ans maintenant. C'était prévu, donc c'est pas très grave, l'idée c'est que de continuer à se baser sur déjà les fondamentaux. Une fois que t'as les fondamentaux qui tournent, déjà bon bah tu peux aller de l'avant. Pour ce qui est nouveaux clients ou autres, la stratégie elle est on a repris un peu ce qui avait fonctionné par le passé, c'est stratégie de réseau. Énormément. Donc là, quand on a commencé à sortir un peu de l'opérationnel, organisationnel avec Max, mon associé, on s'est remis dans plein de réseaux, on a rejoint France Digital, on va à une multitude de salons, de conférences, rencontrer un max de personnes pour retravailler ce réseau. On a remis en place des stratégies LinkedIn là-dessus. On faisait pas mal de mailing via Apollo, avec des séquences et autres. Je trouve que ça fonctionnait super bien entre 2018 et 2021. Je trouve que 2022, ça commençait à être... Enfin, les gens ont marre de recevoir des mails. Et du coup, on s'en éloigne de plus en plus pour l'instant. Je pense qu'un mail très bien fait continue d'être très pertinent. Mais ça vaut... Enfin, il faut prendre le temps de le faire quasi à la main, de regarder ce que la personne fait et de savoir, enfin, de leur rendre service en les démarchant. On fait un peu plus sur LinkedIn. On utilise Scaly et moi, je le tourne énormément. Encore une fois, sur le besoin d'aide et sur la rencontre avec le marché. Donc, pareil, j'ai un vrai budget cadeau de dons pour les gens que je rencontre. Quand je rencontre quelqu'un, je me dis pas c'est mon futur client, faut que je le close absolument. Je le rencontre en me disant c'est quelqu'un qui a un problème, qui est dans un secteur qui peut m'intéresser, qui est dans un qui fait un métier qui pourrait être intéressant pour moi. Ok, c'est quoi les trucs qu'il regarde, c'est quoi les trucs qu'il écoute, c'est quoi le caillou qu'il a dans sa chaussure, que c'est quoi les KPI ou les OKR qu'on lui a fixés. Et quels sont les mots-clés qu'il utilise? Est-ce qu'il y a des verbatims qu'il utilise ou qui fait que quand moi, je vais pouvoir créer une landing dédiée pour ces personas, je vais utiliser les mots qu'il a utilisés. Tiens, je discute pas énormément avec des CRM managers. Les CRM managers, c'est les personnes dans le département marketing qui vont réfléchir au parcours client. C'est parfait pour nous parce qu'ils vont vouloir soit faire un cadeau d'accueil, créer de la fidélité, ceux qui sont en charge des programmes de fidélité. C'est des personnes qui sont essentielles sur le marketing. Et en fait, c'est souvent des personnes qui ne sont pas valorisées dans leur travail. On considère que, comme ils s'occupent de clients déjà signés, c'est un peu les laisser pour compte du marketing parce que tu signes un nouveau client, t'es allé le chercher, donc t'as un ROI quand tu vas faire une campagne et que tu récupères des gens. Mais le fait que tes gens restent, soient fidèles et soient engagés, ça paraît en fait attendu, ça te paraît normal, comme un comptable où t'attends qu'il sorte un bilan qui soit net et propre. Oui, ça paraît normal, c'est son boulot. Alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. Et ils sont pas valorisés suffisamment là-dessus. Et donc, pour avoir énormément échangé, j'entendais énormément le côté « on n'est pas valorisé, on n'est pas mis en avant ». Donc ça, tu le gardes dans un coin de tête. Tu dis « ok, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux mettre en avant ». Et l'autre, c'est « on n'arrive pas à prouver » qu'on apporte du ROI. Parce que dans l'acquisition, c'est simple, t'as fait une ad, tu vois combien de gens sont venus, combien de gens ont créé un compte.
Ouais.
Comment tu mesures, tu peux mesurer la fidélité, mais bon, t'as le churn, ok, mais c'est pas que du fait du CRM manager que le mec a pas churné, quoi. Et donc, dans notre réflexion d'évolution produit, on est à se dire, ok, quels sont des outils de mesure ou de KPI qui permettraient d'identifier que les gens qui sont inscrits à la newsletter. Et généralement, c'est aussi cette équipe-là qui peut s'occuper des premiers contacts ou combien on réussit à créer un compte derrière, quelles sont les mesures de NPS ou de satisfaction, quelles sont les sur des enquêtes qui ont été faites, à quel point l'accompagnement peut amener à générer du business, à faire de l'upsell ou autre. Et donc, à chaque fois, on essaie de réfléchir, nous, comment dans nos outils, on peut intégrer des mesures, enfin des éléments qui permettrait à ces CRM managers de pouvoir voir leur N+1 et de dire ok, objectivement, voilà ce que j'ai créé comme valeur et ça se traduit en temps de clients ou temps de CA. Donc moi je passe beaucoup de temps là-dessus sur réseau, donc Scaly, énormément de salons. On a une approche aussi marrante. On va pas forcément en tant qu'exposant, on va dans les salons. Sur les marchés dans lesquels on croit. Donc, il y a des marchés, on se dit, OK, ça, c'est méga porteur. C'est quoi les 3 salons de référence? Bon, ben, on y va avec notre bâton de pèlerin à 3 commerciaux. Et on va voir les standistes. On va discuter avec eux. Et en fait, quand tu as un stand, tu passes la journée à attendre que quelqu'un te parle. Donc, déjà, t'es super content que quelqu'un te parle. Ce sont des personnes qui ont envie de convaincre, qui ont envie d'engager, soit des nouveaux clients, généralement, soit des recruteurs qui cherchent à fidéliser des clients. Donc pour nous c'est parfait, ce sont généralement les bons interlocuteurs et assez rapidement nous on s'intéresse à ce qu'ils font et derrière on leur dit ce qu'on fait sans forcément leur vendre ce qu'on fait et allez une fois sur 3 la personne dit, ah mais ce serait super utile pour nous, avec qui on devrait parler et autres, et ça se fait naturellement en fait. Si tu réponds à un problème, ça se fait naturellement.
Tu m'avais parlé aussi de, et ça m'avait surpris, enfin à moitié on va dire, mais tu m'avais parlé de cold call. Et je sais pas si tu te rappelles cette histoire d'externalisation, pas externalisation. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Ça te permet de décrocher en tout cas des bolides. Donc ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus dessus et sur l'évolution de ta philosophie justement là-dessus?
Ouais, sur le call-call. Alors, moi, au début, j'étais contre l'externalisation du call-call, complètement. J'ai eu des débats avec mon associé là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même, surtout quand tu t'évangélises un marché ou que tu veux proposer une nouvelle plateforme. Mm-hmm. Ah bon, t'es obligé de le faire. Je continue de penser que t'es obligé de le faire. Il faut le faire en perso. Mais la première fois qu'on l'a fait, on était avec une agence, le discours était pas encore bien posé, la vision, mission claire et tout. On a eu des résultats, mais catastrophiques, comme on peut s'en douter quand ça n'a pas été fait avant. Et j'ai imposé de pouvoir le faire en interne et de le faire moi-même. Avec mon associé, on prend notre téléphone et on appelle. On en fait beaucoup. Les équipes en font beaucoup. Donc, on se met dans des salles. On a des sessions qui sont dédiées là-dessus. Mmh. Là, pareil, quand tu commences à arriver sur une boîte de 30-40 personnes, en fait, il y a beaucoup de choses opérationnelles que tu délègues ou de choses que t'aimes moins faire. Ça, typiquement, j'aime pas le faire. Mmh. Comme je disais, je suis pas un commercial. Mais en fait, t'es obligé de le faire. Il faut pas oublier ça, parce qu'il y a des moments où tu dis, ah, je me crois arrivé, vas-y, ça, je vais le déléguer ou autre. En fait, tu perds de plein pied cette relation directe que tu peux avoir avec le client ou le prospect. Donc, on a énormément travaillé le discours, énormément fait évoluer, on s'est pris énormément de portes, mais on a compris pourquoi, de première main. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à mieux maîtriser le discours, moi, je me suis fait démarcher par quelqu'un. Alors, généralement, je réponds assez négativement au démarchage. J'ai une anecdote là-dessus. Avant, je raccrochais direct, je disais que j'étais sur Blocktel et tout. Mmh. Et en fait, maintenant, je prends le contre-pied, je réponds, j'explique pourquoi je suis pas intéressé. Et après, je leur demande ce qu'ils utilisent, est-ce qu'ils font de la fidélisation, est-ce qu'ils font de l'engagement, qui s'en occupe dans la boîte.
Okay.
Et maintenant, à chaque fois que je me fais démarcher, je récupère un mail, je récupère un contact et j'ai déjà signé 3 ou 4 clients en transformant le code de démarchage. Le mec qui te démarche, il est obligé de te répondre. Il est obligé de t'écouter, il peut pas, ça fait partie du jeu. Donc si jamais les boîtes qui vous appellent sont dans votre scope, n'hésitez pas à répondre gentiment et après derrière vous leur mettez un tunnel et vous signez le deal. Donc moi j'ai changé mon approche là-dessus, ça m'amuse beaucoup maintenant d'être démarché. Et l'autre partie, on est passé par une autre agence. En fait, j'étais démarché, j'ai trouvé la personne qui m'avait démarché super forte. Elle avait closé sur un compte, et en discutant avec cette personne, elle me dit, ah ben moi j'ai une agence qui fait du call-call, et on a commencé à travailler avec eux, mais on avait un discours qui était beaucoup plus rodé, qu'on avait travaillé nous en amont parce qu'on en avait bouffé du call, et du coup ils ont commencé à le faire et on commence à avoir des très bons résultats. On génère 7 leads par semaine avec 2 opérateurs. Je crois qu'on a un coût du call, enfin du lead, autour de 80 €, donc ce qui est vraiment pas mal pour nous.
Ouais.
De ce côté-là, parce qu'après on a des paniers moyens qui sont assez élevés. Moi, ce que j'aime beaucoup, enfin l'agence fonctionne très bien, parce que parfois après je récupère le premier call. Et je leur demande directement pourquoi vous avez eu envie de faire ce call, qu'est-ce qui vous a plu dans le premier appel, pourquoi vous voulez qu'on discute. Et j'en ai eu 2 qui m'ont répondu. Alors là, j'en ai aucune idée. Généralement, je ne réponds pas aux sollicitations, mais la personne a été très convaincante. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec vous. Je me suis dit, ok, là, les mecs, ils sont très forts. C'est cool. Donc voilà, je pense qu'il faut... Et c'est plus de l'argent, mais en fait, si t'as pas travaillé ton discours en amont, si t'es pas positionné sur des éléments aussi que t'as testé toi-même, ça peut pas marcher. Et faut le faire encore une fois avec de la bienveillance. Écouter la personne. Si la personne te met un stop direct, t'es pas obligé d'insister. C'est bon. On est tous gênés par ça. En revanche, essayer de réfléchir avec elle, lui dire « qu'est-ce que ça, c'est un sujet pour toi ?» Donc, de repartir sur des sujets aussi qui sont ultra ouverts, ultra larges. L'engagement et la fidélité, c'est un méga sujet. Donc, quand tu appelles les gens qui sont en communication, en marketing ou en RH et que tu leur dis « est-ce que l'engagement et la fidélité, c'est un sujet pour vous ?» Généralement, tu as oui. Et là-dessus, tu leur dis clairement « je vous appelle, ça prendra 5 minutes, je suis désolé, je déteste moi aussi être démarché. » mais je suis le cofondateur et en fait la façon enfin pourquoi je vous appelle c'est que j'ai envie d'en savoir plus sur votre métier, sur vous et ce que vous faites. Je cherche pas absolument à vous vendre un truc. Au contraire, vous allez m'apporter quelque chose. Et donc, prenons rendez-vous. Comme ça, vous allez m'expliquer votre métier. Moi, je suis prêt à vous offrir 30 euros de dons à la suite de votre choix. Si vous m'accordez 15 minutes, ça prendra pas plus de toute façon. Mais c'est un call où j'ai juste envie de besoin de vous écouter. Moi, ce qui m'intéresse à ce stade de mon aventure, c'est chercher des utilisateurs. Pas forcément chercher des high-paying customers ou autres, parce que j'ai besoin d'utilisateurs qui, évidemment, vont payer ou vont utiliser. Mais j'ai besoin de retour, j'ai besoin de savoir quelles sont les fonctionnalités, j'ai besoin de créer des gens qui créent mon premier réseau d'ambassadeurs, qui eux-mêmes après vont en parler à tout le monde et vont dire que Panoply c'est génial parce que ça a été co-construit avec eux. Donc c'est ce que je cherche absolument aujourd'hui et depuis qu'on a lancé la plateforme, enfin la nouvelle plateforme Panoply One en début septembre, on vient de dépasser les 500 utilisateurs en assez peu de temps, donc je suis assez content, même pas l'espace d'un mois. Et surtout des personnes qui nous répondent, avec qui on a des interactions, à qui on peut envoyer des idées de fonctionnalités, à qui on peut discuter sur notre roadmap, on leur envoie des briefs, on leur envoie des écrans. Et donc, on co-construit la solution avec eux. Eux, ça les éclate parce que, ils co-construisent une solution qui va vraiment répondre à un de leurs problèmes. Et on n'est pas dans une démarche de leur dire, maintenant, il faut absolument que vous payez, vous utilisez notre truc ou autre. C'est, on co-construit, on travaille ensemble pour créer l'outil qui répondra le plus à vos besoins et à vos attentes. Et après, si on a réussi à faire ça, c'est plié. T'as déjà 500 ambassadeurs qui vont en parler à tout le monde. Si t'as créé l'outil parfait qui enlève vraiment et qui donne la chaussure de ces personnes-là, c'est qu'il y en a d'autres par capillarité qui ont le même problème. Donc, t'as tout compris, en fait.
C'est ce que tu me disais. Toi, ton job, c'est de trouver des hardcore fans d'ici la fin de l'année. Exactement. D'arriver à t'appuyer sur eux, justement, pour faire passer le message et montrer qu'il y a une nouvelle alternative, comme tu disais, aux cadeaux traditionnels dont personne ne veut et qui sont souvent, enfin, dont les budgets sont souvent gaspillés. Donc ouais, trop bien. Est-ce que il y a peut-être avant de clôturer, est-ce qu'il y a un autre levier que vous avez testé qui a bien marché, je sais pas, des webinars, je crois que tu m'avais dit, non?
Ouais, les webinars, effectivement, maintenant que tu le dis. On a commencé à en faire sur des sujets qui nous passionnent, la RSE en particulier, et sur les stratégies d'engagement. Donc vraiment, c'est de repartir de quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce qu'on fait, de dire comment tu peux mettre du gifting dans ta stratégie d'expérience client. En vrai, enfin, si tu vends ton produit, les gens ils vont pas venir. Mmh. En revanche, de commencer à se dire ok, comment on organise un événement responsable. Comment on calcule l'impact carbone, comment tu juges un fournisseur par rapport à son engagement de responsabilité, quels sont les critères pour choisir un fournisseur responsable, comment tu améliores tes achats là-dessus, ça peut être comment repenser intelligemment son parcours client de façon très large.
Sans savoir. C'est une approche média, hein. C'est trouver les sujets d'intérêt pour tes personas, quoi.
Ouais, je pense que pour beaucoup d'auditeurs, ça va paraître basique là-dessus, mais je pense que c'est important, c'est de créer de la valeur. En fait, ça va avec ce qu'on se disait aussi sur le réseau, c'est la réciprocité. C'est avant de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de récupérer de la personne, c'est qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner. Donc, évidemment, t'as les livres blancs, le webinar, moi, c'est un format que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Tu peux inviter plein de gens, c'est interactif. Tu peux inviter des personnes qui eux-mêmes ont des communautés qui derrière vont te permettre de toucher aussi d'autres personnes, donc ça aussi c'est facile, je trouve, à organiser. Il faut quand même taffer le truc pour pouvoir avoir une présentation de qualité, avoir des éléments qui soient, tu peux vraiment apporter de la valeur. Mais si tu te mets dans la tête de quel est un sujet qui passionne tes personas ou qui est vraiment le caillou dans la chaussure indépendamment de ce que toi tu proposes comme produit ou service, que t'invites ou que tu prépares une super présentation, que t'invites le pont ou la ponte sur le sujet, tu vas créer de la valeur, tu vas apporter, et donc au fur et à mesure les gens ils vont commencer à te connaître, de plus en plus ils vont s'intéresser à toi, à ce que tu fais, et peut-être si ça répond à un de leurs enjeux sur un des sujets auxquels ils penseront à toi et te recommanderont. Et en fait, c'est clairement pas de l'argent gaspillé, c'est du temps, c'est de l'investissement. Mais je trouve que travailler cette notoriété, elle est essentielle, elle fait partie du job, surtout dans un moment où des canaux plus traditionnels, on va dire, qui était le mailing de masse, ne marche plus trop, je trouve, ou doit être repensé en tout cas. Je trouve que c'est le moment en fait de recréer des liens interactifs, donc les salons, le call call, l'échange physique avec les personnes reste un des meilleurs moyens de networking, reste les meilleurs moyens pour
le podcast aussi, hein. Super, podcast, ouais. Franchement, un podcast sur la RSE, enfin, faudrait penser le concept, mais en vrai, ça peut transposer vos webinars et.
J'adore. C'est un sujet auquel on pourra discuter tous les deux en antenne, mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est très intéressant de l'avoir, mais après, faut trouver le bon angle, faut trouver le bon ton. Enfin, je suis en train d'expliquer un truc que tu connais un milliard de fois plus que moi. Mais en tout cas, ça se fait pas du tout comme ça. Et je trouve on n'a pas encore craqué la ligne éditoriale. On se dit, on apportera vraiment de la valeur aujourd'hui. Ça se travaille. Je pense que ça se travaille avec des pros là-dessus.
Non, mais c'est moi en tout cas, j'y crois beaucoup hein, sur le B2B et chaud pour qu'on s'en reparle. Mais ouais, c'est un format que tu peux décliner en un milliard de formats par la suite, des articles, des vidéos, ouais, des shorts, ça. Bref, tu peux faire plein de trucs.
Tu recycles à fond en fait, et ouais. ça c'est génial. Le contenu pas jetable, le code pas jetable, enfin c'est ce qu'il faut à chaque fois. Ça va avec le côté lean agile, c'est tu construis un truc qui est là pour être utilisé sur plein de briques. T'as un webinar, effectivement, tu le traduis hop en écrit, t'as du super contenu blog, ça te fait un truc de podcast, ça te fait un livre blanc donc que tu peux en tirer. Enfin c'est super utile.
Trop bien. Bah écoute, en fait, là, on a bien dépassé le temps.
Ouais, clairement. Il y a eu le temps passé, je suis mince. J'espère que les gens nous ont suivis jusqu'au bout.
Bah écoute, j'espère. En tout cas, il y a des leçons très intéressantes, je trouve, avec le pivot et toute la transformation que vous avez eue. Et plein de petits conseils, tu vois, même sur la conduite du changement. Que j'avais jamais entendu dans le podcast et je pense que c'est super intéressant et ça va aussi bien pour des CEO que des C-level qui doivent justement engager leurs équipes. Donc merci beaucoup. Et c'est quoi un petit peu, avant de te poser les traditionnelles questions de fin, c'est quoi ton prochain challenge là sur les 6 à 12 prochains mois? Il y a aussi du recrutement au-delà de la partie.
Alors, on
user.
Est plutôt sur on continue de travailler les fondations. Mmh. Et donc ça, c'est super important pour nous. Cette année, on avait énormément investi, ce qui nous avait fait décaler de la rentabilité. Et donc cette année, on est en perte. Donc là, moi, mon objectif, c'est de réatteindre la rentabilité à 6 à 12 mois. Mmh. Donc pour ça, c'est assez simple. Je dois faire plus de 20% de croissance d'ici à fin d'année prochaine pour être rentable le mois. Donc, on continue là-dessus, fidéliser et retenir les clients qu'on a signés et avec qui on travaille et faire grandir ses comptes. Mm-hmm. Donc, cette stratégie de learn and expand, de travailler avec un département, aller chercher d'autres départements, travailler avec une filiale, tu remontes le groupe. Et de continuer à aller chercher des nouveaux clients plutôt sur des secteurs qui sont les secteurs porteurs qui recrutent en croissance. Donc, voilà, il y a un côté diversification du portefeuille client qui est très intéressant parce que plus t'as diversifié, plus t'as réduit ta couverture de risque. Et donc, c'est une croissance saine.
On se fera peut-être le follow-up à voir. En tout cas, je vais suivre ça avec attention. Les petites questions pour clôturer. La première, quelle est la chose la plus dure, plus compliquée dans ton quotidien d'entrepreneur?
C'est de faire la distinction entre personne, enfin, j'allais dire pro et perso, mais ne pas croire que ta boîte c'est toi. Pendant longtemps, quand tu défends un projet, ça devient ta personnalité. Quand on te demande qui tu es, tu vas te dire je suis le cofondateur de, et t'es parti en pitch en fait. Donc quand la boîte va bien, tu vas bien. Quand la boîte va pas bien, tu vas pas bien. Et elle peut ne pas aller bien ou elle peut aller bien par plein d'autres facteurs qui ne sont pas que toi. Il y a des externalités positives, t'as de la chance, t'as de la malchance, t'as des équipes aussi, t'as des clients, t'as des concurrents. Et en fait, de prendre ce recul et de se dire ta boîte, c'est quelque chose qui est une émanation en tout cas de ta personnalité ou de tes valeurs ou autre, mais ce n'est pas toi, c'est pas ta définition de qui tu es. Et donc, bah, tu peux prendre un petit peu de recul sur les succès et prendre aussi un peu de recul sur les défaites. Et c'est bien de prendre ce recul.
J'aime beaucoup. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure? Comme tu as été très bien entouré, j'imagine que tu en as reçu de très bons.
Ouais, je teste. J'aime beaucoup le « je teste ». Culture du test.
Si tu devais changer une chose dans l'histoire de Panoply, ça serait quoi?
Je sais pas. Franchement, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce qu'on a vécu. Je pense que si je changerais, tout ne tient qu'à un fil. Et dans l'entrepreneuriat, je trouve que t'as tellement vite fait de te casser la gueule ou de faire un truc que si je changerais quelque chose, j'aurais trop peur que le château de cartes s'effondre. Tu prends une direction qui est complètement différente. Donc, on a eu un parcours où, voilà, c'est t'as un peu le biais du survivant. Tu regardes derrière, ça te paraît ok, mais en fait, t'as tellement de moments où t'aurais pu être éliminé. Donc non, je ne touche à rien.
Reçu. Dernière question. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander?
Alors moi, je suis un grand fan de littérature, donc je vais sortir du côté lecture traditionnelle, dirigeant ou autre. J'aime beaucoup, je le lis souvent, le livre Mermoz de Joseph Kessel. Qui est sur un pilote incroyable français qui a une vie complètement folle, et c'est une personne que j'admire, et donc j'adore son parcours, sa façon d'être, et donc à chaque fois que je suis moi face à une difficulté, il a fait des choses incroyables. C'est lui qui a construit toutes les lignes d'avion en Afrique, en Amérique latine par exemple. Il pilotait de nuit alors qu'il n'y avait pas de radio. Donc tu te retrouves dans le noir, tu sais même pas où tu vas, et le mec, si jamais il y a quoi que ce soit, il s'écrase. Enfin, c'est des personnalités complètement folles, très rationnelles par ailleurs. Et donc à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me dis ça va, je suis pas non plus de nuit sans radio au-dessus du Brésil à pas savoir si je vais réussir à trouver une piste d'atterrissage qui a été faite avec un feu dans un tonneau pour me dire que c'est ici qu'il faut que je me pose. Et de remettre les trucs en contexte. J'aime beaucoup lire des romans sur des personnes qui ont fait des choses assez incroyables. Ça va, c'est dégonfle le truc. C'est très bien ce que tu fais, et tu peux en être fier. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a aussi d'autres trucs. Il y a d'autres gens qui ont fait face à d'autres obstacles. Ils ont réussi à les surmonter. Donc tu peux clairement y arriver. Donc j'aime bien moi avoir des modèles comme ça dans l'histoire et pouvoir m'y référer régulièrement.
Super intéressant. Je le mettrai comme d'habitude en description. C'est vrai que ça permet de relativiser, de sortir un peu des lectures business, Zero to One et compagnie.
Qui sont très bien.
S'aérer l'esprit. Qui sont très bien, mais qui, voilà, ça permet de s'aérer l'esprit. Merci beaucoup, Adrien. C'était très cool. J'ai vraiment adoré l'épisode et en tout cas, très fan du parcours que vous avez eu. Je te souhaite bon courage pour la fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Salut Adrien.
Salut Eric.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, Secelet. Encore merci et à la semaine prochaine.